Fixez la seconde de réflexion qui fera toute la différence. Celle qui déterminera la réponse et de fait tuera le contentieux ou le nourrira. Dans cette convulsion des sentiments, il faut trouver le chemin de la sagesse. Comment? Je serais bien en peine de l'expliquer. Il est plus aisé de faire que de dire. Plus crédible en tout cas. Il semblerait qu'une facette de la colère soit acceptable, honorable. C'est l'indignation. Elle permet le combat juste, sauve de l'asservissement, apporte la lumière. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on a trouvé, à force de chercher, d'expérimenter, la bonne formule, on la reconnaît, et cette sensation délicieuse s'inscrit en nous, une mémoire vive, et plus jamais nous ne serons perdus et seuls dans les méandres poisseux de la colère. Oh, je ne dis pas que nous ne trébucherons pas, mais je confirme que lorsque cela arrivera, nous serons dans la sérénité, car nous aurons en nous le mode d'emploi pour se relever avec le sourire. Et au lieu d'asséner des coups de pied furibonds et promis à la défaite aux cailloux responsables de la chute, nous accepterons sa présence sur le chemin, et nous avaliserons le fait que cette pierre enchâssée dans la terre n'était pas là pour notre malheur, dans une sorte d'embuscade déterminée et inscrite dans les cahiers célestes. Nous réaliserons que c'est bien notre pied, guidé par notre cerveau, qui est allé cogner le morceau de roche, et non ce bout de granit qui est venu à la rencontre de la pointe de notre chaussure avec la volonté de nous nuire. Peut-être même que si nous sommes dans un bon jour, nous rirons de notre cascade ridicule. Je citerai Nelson Mandela, un homme qui avait de multiples et très puissantes raisons d'être en colère du fond de sa geôle. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il est donc possible que la manière d'appréhender la colère soit une question d'angle de vue, une façon de voir les choses d'une autre manière. Préférer la réflexion permanente à la réaction immédiate. Ce qui n'interdit pas la riposte, car maîtriser sa colère ne promet pas un destin de victime éternelle. Choisir aussi ses combats, ne pas s'épuiser en vains affrontements. Répondre à une insulte par une autre insulte et un ton au-dessus de l'agresseur n'est qu'une promesse de surenchère. Difficile de manipuler ce sentiment avec parcimonie quand celui-ci ne connaît que la démesure. Il faut avoir cela à l'esprit en permanence, une cellule de veille. Mais la colère contient aussi une dose de plaisir. Au creux de sa pogne vigoureuse, dans les sillons des lignes sèches de sa pomme, elle distille des bulles de bien-être, pile à la seconde où nous la laissons se répandre. Au cœur de sa pogne vigoureuse, dans les sillons des lignes sèches de sa pomme, elle distille des bulles de bien-être, pile à la seconde où nous la laissons se répandre. Au cœur de ce bouillonnement impétueux, quand elle décoche ses flèches acérées, nous connaissons un intense et fugace instant de soulagement qui pourrait s'apparenter, dans la survenue et la durée, à celui de l'orgasme. Cet instant libérateur est bien moindre et il nous entraîne immédiatement dans les profondeurs abyssales du remords et du regret. Une sorte de mini-déprime cachée dans l'ombre même de la colère. L'espace de quelques secondes, nous nous sommes rêvés purifiés et nous nous réveillons souillés. Il ne naît donc, de ce tourbillon tonitruant, dans l'apoplexie de sentiments nocifs, qu'une atteinte plus ou moins durable à notre estime de nous-mêmes. La bête est en nous, pour toujours, et elle ne s'éteindra qu'avec notre dernier souffle et la fin de notre espèce. Jusque-là, elle attendra avec une grande patience le moment propice pour nous faire chuter. Elle attend d'être la pierre sur notre chemin. Je trébuche encore, pas si souvent, mais encore un peu. À chaque fois, je me relève conscient de ma défaite, et je me redresse en me promettant que je ferai mieux la prochaine fois. Et la plupart du temps, c'est le cas. Sébastien Vidal.
L'amour. Introduction. Je me souviendrai longtemps de ce soir où Anthony Signol m'a appelé pour me proposer de participer à l'aventure du livre sur les sentiments. J'étais à la fois surpris et flatté qu'il pense à moi. Je n'ai pas hésité une seconde. Bien sûr que j'étais d'accord. Je ne connais personne dans mon entourage proche qui soit identifié comme une personne en situation de handicap mental. Un jour, on m'a donné un rôle dans un court-métrage destiné à des adultes autistes. Je n'ai pas pu tourner, car l'un d'eux me connaissait dans la vraie vie et aurait douté de ma sincérité dans le personnage que je devais incarner. Parfois, je suis appelé, comme tout le monde sans doute, à rencontrer des gens accompagnés d'un parent atteint d'un handicap mental. Je mets un point d'honneur à rester naturel et à me comporter avec eux comme avec tous mes semblables. Mais rien ne me désignait vraiment pour entrer dans cette aventure. J'étais séduit par ce projet parce que ça ne s'était jamais fait, mais je me demandais vraiment à quoi je pourrais servir. Lors de la première rencontre avec les dirigeants de l'ADAPI, nous avons dû, les autres auteurs et moi, choisir parmi 5 sentiments. J'ai longuement hésité avant de choisir l'amour. Ce sujet est générique, je craignais d'aller au casse-pipe, surtout que je partais vers une destination inconnue. Le défi à relever était de taille, mais ce n'était pas pour me déplaire. Samedi 13 janvier, nous sommes tous réunis dans une grande salle à Malemort. Les personnes adultes en situation de handicap, les cadres, les accompagnateurs et nous, les 5 auteurs. Nous sommes invités tour à tour à nous présenter à l'assistance nombreuse et silencieuse. J'ai le trac. Lorsque mon tour arrive, je suis tellement ému d'être là que ma voix chevrotte et que mes yeux s'embuent. Je me présente et expose ma conception de l'amour. À l'issue de nos interventions, 5 groupes de 5 personnes se forment. L'aventure commence. La première rencontre avec mes co-auteurs s'est déroulée à l'ADAPI de Malemort, l'association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales, le 6 février 2018. Je m'étais longuement préparée à cette journée, me promettant d'écouter avec la plus grande attention ces gens différents, afin de rédiger leurs histoires le plus fidèlement possible. Dans un petit coin de ma tête, j'envisageais d'étoffer des confessions sans doute un peu pauvres. Le coordinateur Anthony Signol fit de son mieux pour me détendre. Nous nous installâmes dans une grande salle, bientôt rejoint par le premier auteur, accompagné d'un éducateur. Mes préjugés allaient voler en éclats. Je me demande aujourd'hui si le crayon que je suis dans cette histoire a été à la hauteur des histoires qui m'ont été offertes. Les adultes en situation de handicap mental que j'ai rencontrés sont sans filtre. Ils ne font pas semblant, ils regardent droit devant eux. Leur jugement est immédiat et sans appel. Leur sincérité, leur innocence, au sens pur du terme, les rend perméables aux sentiments, bien plus que nous, corrompus par la société qui nous impose un jeu de rôle, un statut, des postures. Leur regard, empreint de bonté mais sans indulgence, m'a fait baisser les yeux et m'a obligé à une introspection. Je comprends mieux Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il disait que l'homme est naturellement bon. En même temps qu'il m'ôtait mes œillères, ils me donnaient une leçon de vie. Ils m'ont généreusement offert leurs confidences les plus intimes. La profondeur de leurs sentiments est abyssale et son intensité stupéfiante. Leur générosité aussi m'a conquis. Ils sont eux-mêmes. Ils m'ont parlé de l'amour sans détour, sans faux semblant, de celui qu'ils donnent et qu'ils reçoivent. Leur enfance n'est jamais loin. Ils en ont conservé la candeur, la spontanéité et la capacité d'émerveillement. Leurs confidences m'ont tiré des larmes, de belles grosses larmes, vous savez, celles qui font du bien, celles dont on est fier, celles qu'on n'a pas envie d'essuyer. Ils m'ont fait rire aux éclats aussi. Ils m'ont donné leur confiance, leur temps, leur amitié. Je crois, enfin j'espère. Après notre première rencontre, j'étais incapable d'écrire. Tout ce que j'avais vécu à leur côté une journée durant était tellement fort, tellement inattendu, qu'il me fallait du temps pour trouver les mots. Vous savez, ces mots qui prennent un malin plaisir à vous faire croire qu'ils vont surgir de votre subconscient, d'un instant à l'autre, et qui esquivent vos tentatives de capture en voletant dans votre esprit. Ces mots dont on dit, lorsqu'ils arrivent enfin, c'est exactement celui-là qu'il fallait. Croyant qu'on les a trouvés, alors que ce sont eux qui vous trouvent. Ces mots ne venaient pas. les discrètes relances d'Anthony et l'échéance de la deuxième rencontre ont eu raison de cette période d'incertitude et de frustration de ne pas pouvoir raconter ce qui est tellement beau, justement parce que c'est tellement beau. J'ai mis un point d'honneur à transcrire fidèlement tout ce qu'ils m'ont confié sans jamais extrapoler ni prolonger leurs pensées par les miennes. Ça aurait été malhonnête vis-à-vis d'eux comme de vous. Les cinq nouvelles ont pris forme. Elles sont parties vers leurs auteurs respectifs, me laissant songeur, inquiet aussi. Leur plairait-elle ? Lorsque, 2 mois après notre première rencontre, j'ai retrouvé mes 5 co-auteurs, j'ai éprouvé un sentiment de bien-être intense. Le centre de l'ADAPI ressemble à une oasis de sincérité, de vérité et de bienveillance. Leur jovialité, leur regard franc, leur sourire non fin m'ont rendu incroyablement heureux. Nous avons repris les textes, leurs textes. Et ensemble, nous avons soigneusement dépoussiéré, allégé tout ce qui devait l'être. Nous avons accompli ensemble un travail de précision, celui de l'artisan qui porte un regard passionné et exigeant sur son œuvre. Cet artisan qui veut donner le meilleur de lui-même aux autres, parce que c'est ça qui est important. Faire de son mieux, franchir ses propres limites, aller plus loin, plus haut, vers les autres. Pour les autres. J'aurais aimé pouvoir dire que les personnes en situation de handicap mental sont comme les autres, mais elles sont différentes, parce qu'elles sont meilleures, plus belles aussi. Elles n'ont pas érigé de barrières entre elles et les autres. Vous, qui allez entrer dans l'univers des personnes en situation de handicap mental, vous allez tomber de haut. Parce que celles et ceux qui l'ont écrit sont incroyablement riches, riches de sentiments que vous avez laissés s'étioler, parce que vous n'avez pas pris le temps d'aller au fond de vous-même. Pas le temps. Vous avez une vie à réussir, je ne vous juge pas, je suis comme vous. Mais moi, j'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai eu la chance d'être acceptée par eux. Et ils m'ont fait comprendre combien la vie est belle quand elle est accompagnée de l'amour. Il faut multiplier les occasions de le donner et de le recevoir, le provoquer par un sourire, une main tendue, il l'exprime avec aisance. « Je t'aime », pas facile à dire, hein ? Je songe à Socrate qui a développé la pensée suivante, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Il faut aller au fond de soi-même pour s'accepter avant de se connaître et de s'aimer. Lorsqu'on parvient à s'aimer soi-même, on peut alors s'oublier et aller vers les autres, pour les aimer. C'est le but suprême de notre vie. Steve Jobs n'a pas dit autre chose au crépuscule de son existence. Je pense également à la chanson de John Lennon, « Imagine ». Faisons tomber les murs que sont les préjugés, la paresse d'aller vers les autres et nos ignorances. Jetons des ponts vers les autres, tous les autres que nous sommes amenés à croiser. La plus belle chose que nous puissions faire pour nous-mêmes, c'est aimer les autres. Christian l'aîné. Renoncement à l'amour par amour. Ma santé décline, mon quotidien est monotone depuis qu'on m'a changé d'unité. Ils font de leur mieux, je le sais. N'empêche, la vie n'est pas marrante. Avant de tomber malade, j'étais heureuse dans notre univers de gens différents. Nous vivions, nous travaillions, nous rions ensemble. Certains d'entre nous rencontraient même l'amour. Ce fut mon cas, qu'il était beau. Je le dévorais des yeux. J'ai su, à la seconde où je l'ai rencontré, qu'il était l'homme de ma vie. C'était à la pause au foyer. Je lui ai dit « Je t'aime » et il m'a répondu « Moi aussi ». Il s'est approché de moi et nous nous sommes embrassés sur la bouche. Je n'avais jamais vécu aussi fort qu'à cet instant. Il a fallu retourner à l'atelier. À l'époque, je pouvais travailler, je pensais à lui sans cesse. Impossible de me concentrer, mais que c'était bon. Lorsque nous ne travaillions pas, nous étions tout le temps ensemble. Avec lui, La vie prenait une autre dimension, le ciel était encore plus bleu, les oiseaux chantaient encore plus fort, les bourgeons des arbres éclataient et leurs pétales se collaient aux semelles de nos chaussures. La plus banale des promenades m'inspirait des émotions rares et précieuses. Je ne m'habituais pas à tous ces instants merveilleux qui se succédaient et allaient crescendo. Je me souviens d'un soir où nous avons fait l'amour. Ses mains brûlantes glissaient sur ma peau, son corps qui allait et venait parfaitement synchronisé sur le mien, nos soupirs, nos cheveux qui collaient aux tempes, et puis ce torrent de plaisir qui m'a soudainement irradié de la tête aux pieds, me laissant amorphe. Ce soir-là, j'ai vraiment compris ce que faire l'amour signifie. On ne fait pas un sentiment, mais on peut le provoquer, le transmettre à ses sens et à son corps, jusqu'à l'abandon total. Aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai eue de vivre cet instant de toutes mes fibres et de tous mes muscles. Aujourd'hui que mon corps se raidit, me désobéit, ou en tout cas ne m'obéit plus. Mes doigts se crispent, mes jambes se dérobent sous mon poids et les sensations me quittent. La vie m'abandonne. Les neurones, ce sont les neurones qui m'abandonnent, responsables de la dégénérescence de mon système nerveux. J'ai la désagréable impression d'être prisonnière de mon corps. Le regard de mon homme m'a fait mal. J'ai lu de la souffrance dans ses yeux, la souffrance d'assister impuissant à ma déchéance. Ça, je ne pouvais pas le supporter. Il comptait plus que tout. Alors, j'ai décidé que je devais le quitter. Parce que la médiocrité ne doit pas succéder à ce que nous avons vécu ensemble. Lorsque je lui ai annoncé que c'était fini entre nous, ses yeux se sont emplis de larmes. Il m'a fait penser à un petit garçon désemparé. Je me suis mordu les lèvres, je me suis reproché d'être dur, mais je ne pouvais pas décider autre chose. C'est la vie qui est dure, la maladie en tout cas. Il a fini par accepter ma décision. Je suis certaine qu'au fond de lui-même, il a compris que je l'ai quitté par amour. Ça, je ne lui ai pas dit. La dignité, c'est mon dernier luxe. Il ne me reste plus que ça. Je ne me donne même plus le droit de penser à notre belle histoire. J'ai trop mal. Nous sommes séparés depuis 2 ans. Nous nous sommes revus lors d'une soirée dansante dans une discothèque à Tulle, il y a 6 mois. Il est venu à ma rencontre et il m'a embrassé. Il semblait très ému. Il m'a murmuré à l'oreille, « Il n'y aura personne d'autre que toi. Je t'aime. » J'ai gardé une photo de nous deux, mais je suis incapable de la regarder. L'album dans lequel elle est rangée ne me quitte jamais. Je le garde dans mon sac à main le jour, et le soir, je le pose sur une chaise à côté de mon lit. J'attache beaucoup d'importance aux objets, leur présence me prouve que notre histoire a bien existé. Ce bol, par exemple, avec lequel je prends mon petit déjeuner, ce bol, qui vient de Paris, fait ressurgir des souvenirs qui me renvoient à mon enfance. Ces objets m'ont tous été offerts le jour de mon anniversaire par l'homme que j'aimais et que j'aime encore. Dernièrement, il m'a offert un nounours en peluche pour mon anniversaire. Il ne me quitte jamais. Les forces m'abandonnent. Je ne peux plus articuler. Même les accompagnateurs les plus proches ont du mal à me comprendre et je ne quitte plus mon fauteuil roulant que pour m'aliter. Mais rien ni personne ne pourra m'enlever ces instants divins que je garde en moi et qui me donnent encore la force de mépriser celle qui me cloue au lit et qu'on appelle la maladie de Parkinson. Sophie. Elle m'a quitté par amour. L'amour m'est tombé dessus un jour de mars. C'était à l'ESAT, il faisait beau, c'était le printemps. C'est en arrivant à la machine à café, lors de la pause de 10 heures, que je l'ai vu. Mes yeux ont fait tic. De la lumière a jailli à mes doigts, mon cœur a fait boum. J'ai compris que j'avais un coup de foudre. Il y a plusieurs sortes d'amour. Je connaissais l'amour paternel. Celui-là est important. mais il faut garder une distance nécessaire alors que le sentiment, aussi violent que magnifique, qui venait de me tomber dessus, était plus fort que moi. Je ne pouvais pas l'arrêter. Je n'avais pas envie qu'il s'arrête, alors ça tombait bien. Il était tellement puissant et tellement beau. Un amour aussi fort exige beaucoup d'énergie. Je l'avais. Alors je me suis approchée d'elle, tout doucement. J'ai lu dans ses yeux. Je l'ai sentie troublée. J'ai brisé le silence. « Bonjour, je crois bien que je suis amoureux de toi. » Elle a rougi, puis elle m'a souri. Après quelques secondes d'hésitation, gênée, elle s'est décidée à me répondre. « Tu es beau, je veux sortir avec toi. » Je me suis penchée vers elle. Nous avons échangé notre premier baiser. Oh, pas sur la bouche, sur les lèvres. Alors, le temps s'est envolé. Il a fallu retourner à l'atelier. Marie travaillait sur des pièces d'avion pour une usine. Moi, je fabriquais des palettes à l'atelier bois. Je n'arrêtais pas de penser à elle. Je me suis fait violence pour me concentrer sur mon boulot. C'est dangereux de penser à l'amour quand on manie des outils. Le temps qui passait si vite, quelques heures plus tôt, s'est arrêté. Et les 2 heures qui me séparaient de la pause du déjeuner m'ont paru très longues. Lorsque j'ai pu enfin rejoindre le réfectoire, je me suis assis, juste à côté d'elle. « Je t'attendais, » m'a-t-elle déclaré, dans un grand sourire. Le repas avalé, nous sommes partis pour une promenade. Les pommiers en fleurs, la brise légère, les insectes qui butinaient, nous faisaient croire que la nature s'associait à notre bonheur. Nous, les humains, nous n'avons pas besoin des abeilles pour faire l'amour. Les arbres, si. Je serrai la main de Marie dans la mienne, petite main douce et délicate, qui ajoutait à mon émoi. Je me sentais léger, un peu étourdi par la puissance et la soudaineté de ce sentiment si merveilleux qui m'animait, l'amour. Ce lien sacré qui nous unissait s'est renforcé au fil du temps. Il nous est devenu difficile de regagner nos studios respectifs, tant nous étions fusionnels. Dès que Marie quittait mon champ visuel, je me sentais abandonnée. Dès qu'elle apparaissait, je revivais. On se voyait le week-end et pour les vacances. Mais que les semaines étaient longues! Au centre, ils ont compris que c'était du sérieux, alors ils nous ont rapprochés et nous avons enfin pu vivre ensemble. Nous allions dans sa chambre. C'est elle qui commandait. Nous parlions beaucoup, nous aimions les mêmes choses, les programmes télé comme la musique. Parfois nous allions au restaurant en ville, c'était le bonheur. Les parents de Marie ont demandé à me voir. Elle m'a présenté à eux. C'était un après-midi après le goûter. Il n'avait pas l'air facile, surtout lui. Il me faisait peur. Parfois elle partait chez eux. J'en souffrais, mais je n'avais rien à dire à ça. Elle me rendait heureux, alors je n'avais pas le droit de l'en empêcher. Aimer l'autre, c'est vouloir son bonheur, même si ce qui la rend heureuse nous rend malheureux. La souffrance de son absence n'était rien comparée à l'euphorie qui s'emparait de moi lors de nos retrouvailles. Marie avait pris beaucoup de place dans ma vie. Je croquais la vie à belles dents. Je voyais l'avenir bleu azur, sans aucun nuage. Je n'avais jamais été aussi heureux qu'à cette époque. J'ai vraiment compris ce que veut dire l'expression « couler des jours heureux ». La vie coulait, tel un fleuve tranquille. Un jour, j'ai détecté dans l'attitude de Marie quelque chose d'inhabituel. Ça ressemblait à de la lassitude. Parfois, je voyais comme des ombres passer dans son regard. Elle me souriait, mais son sourire était triste. Lorsque je lui demandais si tout allait bien, si elle m'aimait toujours, elle hochait la tête et me pressait la main. Je sentais bien que quelque chose ne tournait pas rond. Lorsque je l'observais à la dérobée, j'avais l'impression qu'elle se tassait sur elle-même, que son cou ne tenait plus sa tête. Elle semblait regarder au loin, voyant des choses que je ne voyais pas. Un fossé semblait se creuser entre nous. Je devenais insistant, même un peu ridicule peut-être. Je lui demandais si elle m'aimait toujours au moins une fois toutes les heures. Elle hochait faiblement la tête en guise de réponse. Mais elle ne souriait plus et ne me prenait plus la main. Nous étions toujours ensemble, et pourtant, elle semblait absente. Je n'avais qu'elle. Et cependant, le courant de la vie semblait l'emporter, l'éloignant de la rive d'où je la regardais, impuissant, comme un con. Le plus terrible dans l'histoire, c'est qu'elle n'essayait pas de lutter contre le courant et de nager vers moi. J'aurais pu me jeter à l'eau, mais à quoi bon? Marie s'est affaiblie. Elle était toujours fatiguée. J'ai compris à l'attitude des éducateurs qu'il se passait quelque chose de grave. Maladie de Parkinson. Elle a perdu beaucoup d'autonomie. Elle ne supportait plus mon regard. Marie s'enfermait dans un silence qui me glaçait. Du statut d'amoureux, je suis passée à celui de témoin passif d'un naufrage. Personne ne semblait pouvoir sortir Marie de la torpeur qui l'envahissait. Elle me suppliait de m'éloigner d'elle, prétextant une grande fatigue. On l'a changée de service. Nous nous voyions moins. J'étais malheureux comme les pierres. Je ne pouvais rien faire pour elle. Personne, d'ailleurs, ne semblait être en mesure de la sortir de cette maladie qui la faisait décliner un peu plus chaque jour. Moi, j'attendais et j'espérais, sans trop y croire. Lorsqu'on me l'autorisait, je me précipitais vers elle et je la couvais du regard, petit oiseau blessé, quitté par l'envie de vivre. Je lui murmurais des promesses de guérison. Elle ne faisait même pas semblant de me croire. Un jour, elle m'a annoncé qu'elle voulait rompre. J'ai cru qu'elle voulait me quitter parce qu'elle ne m'aimait plus. Elle m'a expliqué que c'était le contraire. Elle n'avait plus l'énergie nécessaire pour vivre un amour aussi fort. Je crois qu'elle ne supportait pas que j'assiste à sa déchéance physique. La mort dans l'âme, j'ai accepté sa décision. Pour former un couple, il faut être deux. J'ai une nouvelle copine depuis août 2017. Mais je ne peux pas oublier Marie. Dernièrement, je lui ai offert un ours en peluche. On m'a rapporté qu'elle ne s'en séparait jamais. Ça veut peut-être dire qu'elle m'aime toujours. Elle m'a quitté par amour, comme dans une chanson. C'est Jane Birkin qui la chante. Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve. Il m'est doux de penser que peut-être elle m'aime encore. Quoi qu'il en soit, c'est Marie qui a gardé mon cœur, et son visage reste imprimé dans ma mémoire, pour toujours. Bernard. Les bonheurs de Mathilde. Je m'appelle Mathilde, j'ai 43 ans, je suis née à Brive, où j'ai passé mon enfance. Je suis partie ensuite à Aubazine. J'ai fréquenté une école normale avant mon arrivée dans un établissement spécialisé. J'ai toujours été sensible à ce que la vie peut apporter, le bien comme le mal. La vie, c'est les autres qui apportent chaleur et tendresse. Le plus important, finalement, c'est l'amour, celui qu'on donne et celui qu'on reçoit, que je me sens bien avec celui que j'aime. L'amour qu'il me donne est si intense que je sens qu'il me porte, je suis sur un nuage. Malgré nos disputes, nous nous aimons très fort. Si notre relation devait s'arrêter, je serais très malheureuse. Je n'entendrais plus mon cœur battre la chamade. Que j'aime le jardin où nous nous donnons rendez-vous. Que j'aime ce banc sur lequel nous avons l'habitude de nous asseoir. Main dans la main, nous échangeons des regards complices. Ces instants d'harmonie me rappellent mon enfance heureuse. Notre vie est déterminée par l'amour qu'on reçoit lorsqu'on est enfant. Lorsque j'étais petite, papa m'accompagnait à l'école. J'adorais ces instants lorsque nous marchions côte à côte et que j'essayais de me synchroniser sur lui. On trichait un peu tous les deux. Il raccourcissait son pas tandis que j'allongeais le mien. Je l'écoutais me prodiguer des conseils et des encouragements. « Prends soin de toi », me répétait-il. Il me donnait du courage. J'en avais besoin car je partais pour la semaine. Il était très patient et très doux avec moi. Lorsque j'étais canaillou, il me recadrait gentiment. « Il te faut nous écouter, c'est pour ton bien. » Le souci permanent de mes parents, c'était mon éducation. Ils attachaient beaucoup d'importance au fait que je sois polie et respectueuse des autres. C'était la seule chose qu'ils exigeaient de moi. Mon père m'a donné de l'élan, j'en suis fière. Maman m'aime très fort aussi. Elle m'a maternée, m'a cajolée, m'a réconfortée, m'a donné de précieux conseils. Elle aime ma sœur autant que moi. L'amour ne se divise pas, il s'additionne. Ma sœur aussi m'a donné beaucoup d'amour. C'est ma petite sœur, elle a 6 ans de moins que moi, mais je la considère comme ma grande sœur, tant elle prend soin de moi et me protège. Cet amour qu'elle me porte ne me quitte jamais. Il gravite autour de moi comme un parfum très fort et délicat à la fois. Je ne crois pas que je pourrais vivre sans elle. À l'amour de maman et de ma sœur s'est ajouté celui de mon chéri. Cet amour nous porte, tel un tapis volant. Sa vitesse nous grise et nous ébouriffe. Nous sommes sur lui, mais il est en nous. L'amour est partout, dans le Lavandou, par exemple, où je sais que mon cousin m'aime comme je l'aime. Tout cet amour est définitivement en moi. Il a grandi en même temps que moi. Je crois qu'il me rend meilleure et heureuse. Il ne me semble pas qu'il y ait plusieurs amours, mais un seul. Il est transposable à toutes les situations. Il aide à se révéler à soi-même et à s'accomplir. J'étais une petite fille timide et repliée. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie et heureuse, et très amoureuse. Il s'appelle Christopher. Christopher et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, lorsqu'il est arrivé à l'ESAT. Nous nous sommes reconnus au premier regard. Je revis l'instant très souvent. Je le revois, se tenant bien droit dans le couloir. Oh, qu'il était beau! J'ai ressenti une chaleur intérieure très forte. Je l'ai senti également très ému. Il s'est approché de moi et m'a demandé si je voulais sortir avec lui, dans un murmure, tout près de mon oreille. J'ai senti la douceur de son souffle parcourir ma joue et descendre dans mon cou. Un frisson a parcouru mon corps. J'étais tétanisée de bonheur. Il a dû sentir mon émoi, alors il s'est enhardi, sa main a caressé ma joue. Puis il a fermé les yeux et a déposé un baiser sur mes lèvres. J'ai vécu cet instant au ralenti, et je me consume intérieurement à l'évocation du début de notre histoire. C'est aussi agréable de l'aimer que d'être aimé de lui. Les journées sont longues sans lui. Heureusement, on se retrouve le soir. Nous avons chacun notre studio, mais nous passons les week-ends ensemble, au centre d'habitat. Nous regardons la télé, nous adorons les films. C'est bizarre, mais j'ai la nette impression que Christopher et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre, et que notre rencontre ne doit rien au hasard. Comment expliquer ce choc aussi merveilleux que puissant le jour de son arrivée? Autre chose, cet amour que je sais exprimer et recevoir, existait avant. Il sommeillait, prêt à s'activer le jour J, comme dans les contes pour enfants. Je pense à la Belle au bois dormant. Il a fallu que son prince charmant lui donne un baiser pour qu'elle sorte d'un sommeil qui a duré une éternité. Je suis certaine que l'amour que mes parents m'ont donné est définitivement en moi. Quand on reçoit l'amour, on le garde à tout jamais. Quoi qu'il arrive. Et cet amour est universel. Il peut venir des parents et être redonné aux autres sans distinction. C'est une matière brute qu'on adapte en fonction des événements. L'amour qui brûle en moi pour Christopher est celui que mes parents m'ont offert. Bien sûr, il est prolongé par l'amour physique, ce qui n'a rien à voir avec l'amour originel. Mais le résultat est là. L'enfant que nous n'avons jamais cessé d'être, s'adapte au corps de l'adulte que nous devenons. Mais nous ne cessons de chercher à reproduire les instants de bonheur que nous avons vécus enfants. Je suis consciente que l'amoureuse comblée que je suis le doit à l'amour que mes parents m'ont donné depuis ma plus petite enfance. Et cet amour, je l'entretiens, normal, puisque je le donne autant que je le reçois. Il nécessite des efforts et de l'attention pour l'autre. Mais ce sont des efforts agréables. Christopher fait de même avec moi. Pour la Saint-Valentin, il m'a offert un bijou. J'aimerais tellement présenter Christopher à mon papa. Il l'aimerait beaucoup, je suis sûre de ça, mais papa est décédé. Je pense souvent à lui. Il n'est pas tout à fait mort. L'amour qu'il a placé en moi n'a jamais été aussi fort. Tant que je continuerai de l'aimer, papa vivra. Là où il est, il continue de m'aimer lui aussi. Et il est heureux que je sois heureuse. Je crois également qu'il est fier de la femme que je suis devenue. Parce que je prends soin des autres et de moi, je ne suis plus jamais qu'un aïeux. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Christopher, je t'aime. Continuez de m'aimer tous les trois, s'il vous plaît. Vous me rendez la vie tellement belle. Finalement, le sens de la vie, c'est la recherche et l'entretien de l'amour. C'est un travail de chaque instant, parce que il faut le mériter. C'est ça qui est vraiment important. Mathilde. Mon roudoudou des îles. Il y a longtemps que j'aime mon roudoudou des îles. Je ne sais pas depuis quand, mais c'est moi qui ai fait le premier pas. Je lui ai dit simplement « Je t'aime ». Il m'a souri et m'a répondu que lui aussi. Je n'avais jamais été amoureuse avant. J'aimais beaucoup de choses comme les fleurs, le soleil, le chant des oiseaux, mais je n'avais jamais aimé un homme. Ce qui nous arrive est tellement merveilleux qu'on fait tout pour que ça dure. Pour entretenir notre amour, Roudoudou et moi nous disons de belles choses. Souvent, nous nous faisons des petits cadeaux. Il m'offre des bijoux et moi des écharpes. Roudoudou se parfume et je me fais belle, pour lui, pour moi aussi parce que je suis coquette. Tout ce que nous faisons ensemble est merveilleux, même des choses simples comme le ménage ou la vaisselle. Mais nous sommes toujours ensemble. Avant que nous soyons en couple, je lui téléphonais tous les soirs. Maintenant, je l'ai tout à moi. Nous aimons les mêmes choses. Nous regardons la télé, Plus belle la vie et notre émission préférée. Mon roudoudou est gentil, il m'offre à boire et à manger. J'aime ses yeux bleus, son visage, ses bras qui me serrent si fort. J'aime son corps, j'adore le contact de sa peau. Faire l'amour avec lui est merveilleux. Je me sens en sécurité dans ses bras. Je ne fais jamais de cauchemars lorsque nous dormons ensemble. Je préfère ma chambre à la sienne. La nuit, je me repère plus facilement pour aller aux toilettes. Et j'aime savoir que mes habits sont près de moi, dans mon placard. Le matin, nous déjeunons ensemble. C'est lui qui prépare le café. On est tous les deux face à face. C'est délicieux. Nous parlons de beaucoup de choses. On parle du papa. C'est tendu entre eux. Un jour, Philippe s'est servi dans son placard. Le papa, il n'a pas apprécié. Ils se sont disputés maintenant. Papa vit en EHPAD. Il n'est plus seul. Il va bien. On n'est pas fait pour vivre seul. Moi, je ne supporte pas la solitude. Bien sûr, mon roudoudou occupe une grande place dans ma vie et dans mon cœur. Mais j'ai besoin de relations amicales. Il voit ça d'un bon œil. J'aime sortir, danser avec mon déambulateur. J'aime aller sur les brocantes, accompagné des éducateurs. Parfois, je déniche de jolis bijoux. La vie est très belle depuis que je vis avec Roudoudou. Mon plus beau souvenir avec lui. Je me souviens d'un pique-nique à l'île d'Oléron. Nous étions allongés dans l'herbe. J'entends encore le bruit des vagues et le cri des mouettes. Mon Roudoudou s'est doucement approché de moi. Il a posé sa tête sur mon épaule et a déposé des baisers dans mon cou. Sa main a glissé sous mon maillot. Je l'ai serré très fort. Il a rampé sur moi et nous avons fait l'amour. L'amour que m'inspire Roudoudou me rend jalouse. Il est à moi. Un jour, une fille a tourné autour de lui. Je l'ai bousculée. Elle n'a jamais recommencé. Il est mon bonheur. Avec lui, tout est si merveilleux. Pour la Saint-Valentin, on ira au resto. Il commandera une bavette et des frites. Nous serons bien. Mon avenir est avec Roudoudou. Lorsque nous ne travaillerons plus, nous irons dans une structure d'accueil tous les deux. Nous vivrons des bonheurs simples, mais vrais. Annick Lac. Annick, mon ciel bleu. Ce n'est pas toujours le garçon qui fait le premier pas, c'est Annick qui m'a abordée. Elle m'a dit simplement « Je t'aime ». Je l'ai embrassée sur les lèvres. Ensuite, elle m'a proposé d'aller discuter avec elle après le travail. Comme elle a des difficultés à se déplacer, je l'aidais. Nous marchions comme deux amoureux que nous étions. Elle s'appuyait sur son déambulateur. C'était en 2012. J'avais 48 ans. Annick en avait 49. C'était il y a 6 ans. Et jamais notre amour n'a été aussi fort qu'aujourd'hui. Normal, on le cultive comme une plante précieuse. L'amour, ça nous tombe dessus comme ça. Mais après, il est ce qu'on en fait. Annick et moi, on l'entretient du mieux qu'on peut. On est d'accord sur tout. On ne se dispute pas souvent. On se fait des cadeaux. On va au resto. Je l'emmène dans ma C3. Annick adore aller au Dreams. À chaque fois, elle commande un croque-madame. C'est comme un croque-monsieur, mais avec 2 œufs dessus. Moi, je prends un steak frites. Au début, Annick habitait à l'extérieur dans un studio avec sa maman. Moi, je l'ai perdue, ma pauvre maman, et ma sœur aussi, et puis ma grand-mère. Elles sont parties toutes les trois la même année, c'était en 2013. Je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas eu l'amour d'Annick. Il me reste de la famille. J'ai une sœur, Agnès. Elle est paralysée depuis la naissance de sa fille Aurélie. Aurélie a 23 ans. Elle est aide-soignante à l'hôpital du Sel. Annick et moi, nous sommes hébergés à la Chêneraie. Au début, les accompagnateurs étaient un peu trop présents. Mais ça a changé. Ils ont compris que nous deux, c'était du sérieux. Nous vivons ensemble depuis 2012. Le matin, c'est moi qui fais le café. Parfois, Annick se moque de moi parce que j'ai ronflé dans la nuit. Mais ce n'est jamais méchant. Nous sommes tout le temps ensemble, et ça, c'est merveilleux. Nous travaillons dans le même atelier. Nous pratiquons les mêmes activités. Au foyer, nous jouons aux petits chevaux ou au jeu des 1000 bornes. Depuis 6 ans, les jours se succèdent et renforcent notre amour. Le présent est embelli par de beaux souvenirs communs. Noël, par exemple. Je me souviens qu'une année, nous l'avons fêté chez la maman d'Annick. C'était la première fois que j'allais chez elle. Nous formions une vraie famille. Je revois le sapin décoré, la table luxueusement dressée. Une année, nous sommes partis à Oléron. Je n'avais jamais vu la mer auparavant. Ça m'a fait drôle de la voir en vrai, si grande, que c'était beau. Nous dormions dans un gîte. Le moniteur nous proposait des activités inhabituelles pour nous. Nous aimions aller à la plage. Parfois, nous partions visiter le pays. Un jour, on a fait une sortie en bateau. Moi qui pensais que notre amour ne vivrait que quelques mois. Je suis prudent de nature et je n'imaginais pas ce qu'était l'amour avant de rencontrer Annick. En tout cas, je croyais ne pas savoir ce que c'était. Pourtant, il était en moi, puisque ma pauvre maman me l'avait donné. Cet amour, elle me l'a transmis avec des caresses, des sourires, des mots doux et des preuves comme son attention permanente. Après les AT, Annick et moi, nous irons vivre dans une maison de retraite. C'est tellement bien, nous deux. Annick est le grand bonheur de ma vie. Philippe Noilletas. L'amour, ma finalité. Du plus loin que je me souvienne, l'amour a toujours été présent dans ma vie. J'ai longtemps cru qu'il animait chacun d'entre nous et que le monde n'était qu'amour. Son prisme déformant m'a joué bien des tours et continue de m'en jouer. Mais je m'en moque. Je continuerai de faire confiance, a priori, et de me comporter avec mes semblables en continuant de croire qu'ils veulent recevoir le mien et me donner le leur. Lorsqu'on se trompe, ça fait mal, mais tant pis, au moins on a essayé. Surtout ne pas s'endurcir, surtout ne pas s'imperméabiliser aux autres. Dès ma plus tendre enfance, l'amour m'est tombé dessus. J'étais le premier enfant d'un jeune couple, mes premiers regards, mes premiers sourires, les ont, je crois, remplis définitivement d'amour pour moi. Il logeait dans une petite mansarde louée par une vieille dame qui s'appelait Augustine. Elle allait rapidement devenir ma gardienne, ma nourrice, comme on disait à l'époque, et être rebaptisée pour l'occasion. Titine allait me consacrer tout son temps, toute son énergie, surtout le meilleur d'elle-même. Papa était ouvrière logée, maman institutrice. C'était donc Titine qui me gardait, allait me chercher à l'école maternelle, me préparait mon goûter. Sa petite maison de briques rouges, sise dans Grandvilliers, petite ville picarde, était devenue mon royaume et j'étais son petit prince. Elle vivait avec sa sœur, Élise, âgée de 10 ans de plus qu'elle. J'ai appris plus tard qu'Élise était en situation de handicap mental et que Titine avait renoncé au mariage pour se consacrer à elle. Les deux vieilles dames faisaient partie de ma vie et leur amour, celui de Titine surtout, embellissait ma vision du monde. Son regard, la douceur de sa voix, ses sourires, son inoxydable patience et sa bienveillance me portaient. Lorsqu'on est enfant, tout paraît naturel, et je n'étais pas conscient que cet amour avait quelque chose d'exceptionnel. Lorsque nous sortions de l'école en rang et en silence, et que j'apercevais la frêle silhouette de Titine au loin, mon cœur s'emballait, et c'est avec fierté que je lui saisissais la main. Nous marchions vers la maison, je lui racontais mes histoires d'enfant, elle hochait la tête en souriant. Le jour où je lui ai annoncé que j'étais le premier de la classe, à l'époque, des classements trimestriels distinguaient les meilleurs élèves, elle a pleuré. Mes exploits scolaires étaient immanquablement récompensés par des visites chez Prash, un magasin de jouets et de bazar, où je me faisais présenter les dernières miniatures de chez Nos Rêves et Matchbox. La vendeuse avait un dentier. Elle butait sur la prononciation du mot anglo-saxon qui faisait sortir la prothèse dangereusement de son clapoir. Ça m'impressionnait beaucoup. Je me souviens d'une Renault Prairie, dépanneuse vert pâle de chez Nos Rêves, une petite manivelle actionnée une crémaillère qui faisait monter et descendre la flèche de remorquage. Mon regard fasciné a fait craquer Titine. La miniature a rejoint ma collection. Titine était économiquement faible, c'était le terme employé à l'époque. J'étais paradoxalement pourri gâté, pour reprendre l'expression de mon père. Ses maigres ressources m'étaient dédiées en grande partie. Jamais je ne l'ai entendu se plaindre. Tout était beau, merveilleux, selon elle. Nous parlions de longues heures durant. Lorsque nous nous taisions, enfin, nos silences étaient ponctués par le tic-tac de l'horloge comtoise et les sonneries des demi-heures et des heures. Il faisait toujours sombre dans sa maisonnette. Et aujourd'hui encore, je recherche l'atmosphère particulière que confère la pénombre et le silence réunis. Je l'interrogeais souvent sur son enfance et sa jeunesse. Elle me parlait des deux guerres, de son frère Henri tué en 1918, de l'exode de 1940 au cours duquel sa sœur Élise perdit son sac à main. Titine avait 20 ans en 1914 et 46 ans en 1940. Elle m'assurait que la guerre 39-40, pour elle la guerre s'était arrêtée en 40, était une saleté générée par la politique. Nous embellissions mutuellement nos existences, elle à l'hiver de sa vie et moi au printemps de la mienne. Titine me répétait souvent qu'il fallait profiter au maximum de l'instant présent et m'insinuait qu'elle n'était pas éternelle. Un jour, je lui ai triomphalement annoncé que j'avais une poule. Comme elle ne semblait pas me comprendre, je lui ai expliqué qu'à l'école, on désignait notre amoureuse de cette façon, que la mienne se prénommait Pascal et que nous voulions nous marier quand nous serions grands. Bien sûr, elle serait invitée. Elle me répondit, dans un petit sourire triste, que quand je serai grand, elle fumerait les pissenlits par la racine depuis Belle-Lurette. Ce jour-là, j'ai vraiment réalisé qu'un jour, il me faudrait vivre sans elle. J'ai décidé d'être le meilleur et j'ai intégré le principe de faire des efforts supplémentaires pour la mériter encore plus. Pour elle, j'ai accepté d'aller au catéchisme. Pour elle, j'ai avalé les steaks hachés de cheval dans lesquels elle mélangeait un jaune d'œuf et qu'elle me servait les samedis, et ce, pendant des années. Elle se souciait de ma santé et m'assurai que la viande de cheval apportait des globules rouges. Il y avait une boucherie chevaline dans la rue. Je voyais parfois des hommes vêtus de blouses à capuche blanche décharger d'énormes quartiers de viande sur leur dos. La vision de leurs sinistres camions symbolisait la mort d'animaux que j'adorais, mais pas dans mon assiette. Le caté, le steak de cheval, c'était pour toi, Titine. Notre amour méritait bien ses sacrifices. Tu es parti un jour de 1973, 15 jours avant ma communion solennelle, exactement. J'ai continué le caté jusqu'à la confirmation, mais j'ai arrêté le cheval. À 12 ans, j'ai compris qu'en pensant à toi, je te garderai un peu avec moi. J'ai continué de regarder la vie dans le prisme que tu m'as transmis. Apprendre à essayer de comprendre les gens plutôt que de les juger. Savoir que l'humain est capable du pire, comme du meilleur, mais l'aimer quand même. Considérer le pardon comme un acte de courage plutôt que comme un acte de faiblesse. La vie m'a appris, depuis, que le pardon permet la libération de soi-même. Les vagues rugissantes de l'adolescence n'ont pas réussi à me décoller du rocher d'amour que tu m'as légué. J'étais en paix avec moi-même et j'aimais sincèrement les autres, tous les autres. À 12 ans, je dépassais mes camarades de classe d'une tête. Je passais, aux yeux de certains, pour un faillot, parce que j'étais bon élève. En plus, j'étais très souvent perché, perdu que j'étais dans mes rêveries, et donc plus du tout dans les buts qu'on m'avait confiés et qui se transformaient alors en passoire. Un jour, à la récré, un garçon beaucoup plus petit que moi m'a insulté, craché à la figure. J'ai baissé la tête, me suis mis à pleurer. Il m'a roué de coups, sa fureur redoublée devant ma passivité. Ce sont les pions qui ont mis fin au massacre. Quelques minutes plus tard, le proviseur me rendit visite à l'infirmerie et, profitant de l'instant où l'infirmière quitta la pièce, il me demanda « Mais pourquoi tu ne t'es pas défendu? Tu en aurais fait une bouchée. » « Parce que j'avais peur, monsieur. » « Mais il ne faut pas avoir peur, tu es beaucoup plus fort que lui. » J'avais peur de lui faire mal, monsieur. Il a ouvert les bras dans un geste d'impuissance, sincèrement désolé, puis il a quitté la pièce sans un mot. Notre vie entière est probablement conditionnée par les premières années de notre enfance. Je n'ai jamais été animée par un quelconque esprit de vengeance parce que je n'ai jamais eu de compte à régler avec personne. Lorsqu'en 2010, j'ai lu un roman français, j'ai découvert, atterré, le récit d'une existence perturbée par des parents qui se déchirent, l'univers sinistre de l'internat de pension privée, une enfance sans amour en quelque sorte. Je venais de publier mon premier roman « Les pieds en Picardie, la tête en Limousin ». Contrairement au premier cité, il n'a pas obtenu le prix Renaudot et je ne compare pas mes récits à ceux du talentueux Frédéric Beigbeder. Mais j'ai réalisé à quel point mon enfance était heureuse et lumineuse grâce à l'amour. L'amour est un sentiment, c'est également un but. Il exige lucidité et solidité. Il faut inlassablement s'ouvrir aux autres, tout en sachant qu'on risque des déconvenues. Dans l'exercice de ma profession de commercial automobile, on m'a souvent reproché d'être trop gentil, trop bienveillant aussi. Avec les clients, dans un premier temps, puis avec les équipes que j'ai dirigées lorsque je suis devenu cadre. Je ne suis pas persuadé qu'un bon commercial soit un mercenaire des temps modernes, sans foi ni loi. Je ne sais pas si je suis moi-même un bon commercial, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est aimer et être aimé. Christian l'aîné.
Le regret. Introduction. Italique. Vous me semblez bien sûr de vous. Peut-on savoir où s'arrête le normal, où commence la normale? Vous pouvez définir ces notions, vous, normalité, anormalité? Philosophiquement et médicalement, personne n'a pu résoudre les problèmes. Vous devriez être au courant de la question. Fin des italiques.
Eugène Ionesco, Rhinocéros, 1959, acte 3, Dudar. Écrire est l'un des dons de soi les plus intimes, les plus généreux et les plus indélébiles qui puissent exister. L'on ne se remet pas d'avoir le temps d'un poème, le temps d'un roman, mis au jour ce qui se terre dans les replis de nos entrailles, entrelacs de chair avec lesquels se confond si bien le grain du papier, soulever l'opercule, portail de ce jardin extraordinaire au cœur duquel trône la perle de notre personnalité. Alors, lorsqu'il est question de décadenasser ce portail et d'autoriser d'autres mains assoiffées d'encre et gourmandes de cellulose à fouler l'herbe du jardin, de prêter sa plume en porte-voix à un parent disparu, de réécrire un passé rêvé, de rejouer un accident fondateur ou de raviver des souvenirs pour mieux en faire le deuil, l'expérience est d'autant plus inédite, insolite, stupéfiante, foudroyante, en un mot, humaine. Mais cette balade à plusieurs aurait pu se borner à la clôture du jardin, à dialoguer en silence avec les ruminants des prés voisins, à s'arrêter docilement au pied du muret en pierre sèche, sans tenter une anodine école buissonnière. Il n'en est rien. La balade est devenue épopée, road movie. Des piquets ont été déplantés et les limites transgressées. En tant qu'auteur, bien sûr, mais aussi en tant que professeur, l'enseignement du français, trahissant mon inébranlable amour des mots, en tant que femme assise aux côtés de celles et ceux qui, dans une vie antérieure, auraient pu être mon fils, un autre moi-même, mon grand frère, enfin et surtout en tant qu'être humain, je retire de ces quelques jours de table ronde, de rencontres et d'amicales associations une empreinte pareille à celle laissée par une poignée de main au creux de la paume, des lettres jamais postées et des regrets confessés dans un souffle qui me reviennent par rafales dans le crâne, tanguent et roulent jusque dans les cirques de ma tête, et des au revoir dont la très prochaine concrétisation sonne comme une garantie. Encore une fois, l'aventure n'a livré qu'une fine tranche, un infime quartier de son tout. Elle s'est avérée tellement plus riche lorsqu'il s'est agi de se hasarder à l'aveuglette sans éclaireur sur les terres de la différence, en ayant préalablement pris soin de déposer derrière soi le bouclier de sa normalité chérie, les œillères des conventions familiales, sociales, verbales. Hasard, aveugle ne sont pas des termes trop forts. Je peux aujourd'hui avouer l'ignorance totale du monde du handicap qui était la mienne, ou plutôt ce vertige au bord du précipice des questions non posées. Comment se comporter? Pendant combien de secondes attarder mes regards? Devrais-je aller au contact, ou au contraire me tenir à distance? Devrais-je adapter mon langage, essayer l'humour? Pourrais-je intervenir, couper la parole, faire preuve d'indiscrétion? J'étais paralysé par autant de questions sans réponse qui s'enroulaient à mes poignets, m'enchaînaient au sol comme des lianes de lierre qui auraient pu m'empêcher d'avancer si l'on ne m'avait mis le pied à l'étrier et montré comment mettre un sabot devant l'autre. D'abord grâce à ces âmes bienveillantes qui ont jalonné et étayé nos parcours, guides au professionnalisme désarmant ou plumes amies, merci. Ensuite, au milieu des larmes versées, des balbutiements et de cet altruisme chevillé au corps, à la faveur de ces menues traces d'altérité, humanité reconquise, consommés Maxime, Lilou, Romane, Jacques et Romain, créatures ailées descendues de leur baldaquin dans un bruissement d'anges pour faire quelques pas sur le sable en ma compagnie. Posais-je toujours les mêmes yeux sur le monde aujourd'hui? Adoptais-je toujours la même vision des choses? Suis-je indemne, identique à celle que j'étais? Non. Ou peut-être oui. À nouveau des questions sans réponse, qui n'en appellent pas, qui n'en demandent pas. Côtoyer le handicap, en plus de rallumer la mèche de l'inspiration, m'a surtout renvoyé dans mes cordes, me confrontant à ce décalage persistant, conséquence directe de ma propre inadaptation aux normes, à mes échecs, à mes regrets, à mes réussites. Je ne suis pas plus normal qu'Élodie, Florence, Maxime, Romain ou Jacques. Seule différence entre eux et moi? Le masque dont j'ajuste l'élastique, avec peut-être un nuage de maniaquerie, le filtre qui permet d'entrevoir chaque chose sous un éclairage rajeunissant, amincissant, embellissant. Cette aventure littéraire m'a rendu plus humaine. Nos faiblesses sont autant de gages de cette humanité à laquelle nous aspirons tous. Plus petite, naufragée dans la mer des nuances de la psychologie humaine, entre face à face avec les vaisseaux de l'horreur et refuge trouvés sur les radeaux de la Providence, moins ingrate car oubliant trop souvent de témoigner ma reconnaissance au commun, à l'habituel, à la banale beauté, à la merveille, au minuscule plaisir, à la poésie du quotidien. Cette expérience personnelle m'a raccroché à ma propre mortalité, celle-là même qui fera de moi une mère un jour ou l'autre. Les auteurs de ces nouvelles éprouvent des sentiments comparables aux nôtres. Enracinés dans ce même ciment, ouvrons donc ce recueil dont chaque texte tend un miroir à notre multiplicité, à notre diversité, à nos trésors. Aude Courty. Trajectoire regrettée. Confession d'un repenti. Regret. Regret de l'hésitation, de la frilosité, de la couardise, etc. Employez le mot savant que vous voudrez, reste qu'il existe une possibilité d'être opéré de l'épilepsie, opération qui fera de moi l'homme le plus heureux du monde. Opéré de l'épilepsie. Ce n'est plus une maladie, c'est un membre. Je veux m'en faire opérer comme le premier venu se ferait ressouder le genou, sauf que c'est un membre fantôme. Comment est-ce qu'on couche un fantôme sur une table de dissection, excepté de façon fortuite? Regret de n'avoir rencontré, avant d'en tomber éperdument amoureux, le métier de menuisier. Le miroitement d'une commande numérique a achevé de me convaincre, comme s'il en était besoin. Regret de ne pas avoir rejoint les compagnons plus tôt, de ne pas m'être engouffré dans leur sillon de sciure et de copeaux. Regret de ne pas pouvoir donner son envol à ma profession de cœur, de ne pas caresser les veines de la matière, en modeler les formes, pour finalement voir ces squelettes de bois se dresser bien solides, bien stables, avant de les adouber, avant de les couronner. J'aurais marché sur les toits du monde, j'aurais réparé. Roi, j'aurais soumis le métal à ma volonté. Regret de ne plus pouvoir envoyer bien copieusement se faire foutre la gravité. Regret de ne plus flirter avec les sommets, de ne plus frayer avec le soleil. Avant l'accident, j'étais le seigneur des airs. Aujourd'hui, je suis cloué à la terre, englué, les deux pieds dans la tourbe. Mais je ne peux pas m'empêcher de reluquer les étoiles. Regret de ne reconnaître mes convictions dans aucun parti politique, dans aucune religion, de ne trinquer avec aucun leader, de ne tutoyer aucun dieu. Regret de ne pas redouter la solitude. Regret de la remplir avec des voix dématérialisées, des sons sans corps au bout du fil, débarquant de tous les horizons, avec des coups de crayon lancés dans le virtuel. Regret de ne pas occuper quatre murs et un toit. Seul. Regret de ne pas payer un loyer, un crédit, de ne pas garer une voiture, de ne pas conduire pour aller au travail. Seul. Regret d'y penser tous les jours, regret d'avoir la haine. Regret depuis 12 ans de vivre dans un foyer à 30 balais parce que je n'ai jamais quitté le Neverland, parce que mon appartement ressemblerait au parc d'attractions d'un adolescent attardé qui circule entre les canettes exsangues et les parts de pizza froide qui s'exile à l'autre pôle du canapé en quête d'effluves touristiques et de vacances à l'étranger, parce que s'il ne m'accompagnait pas, s'il n'était pas là autour de moi, s'il n'intervenait pas, un coup de nageoire et je serais illico presto ramené vers le fond. Je hais ces gros poissons. Regret de nécessiter une maison d'accueil spécialisée, à 30 balais, sans handicap mental et physique. Regret d'avoir à nouveau taillé la route, carte bleue volée en poche, direction ailleurs tout sauf ici. Regret de n'avoir toujours pas fait mon overdose d'adrénaline aujourd'hui, celle qui devrait me sevrer de l'accoutumance au risque et me calmer définitivement. regret d'avoir vu mon quotidien inversé durant 3 années. Patient à temps partiel, hospitalisé le jour, Icare la nuit. Regret de m'être baffré du pire jusqu'à en vomir. Les hôpitaux psychiatriques n'ont plus aucun recoin à cacher. Regret de ne pas m'être rendu compte plus tôt de la beauté de la vie. De ne pas l'avoir plus tôt aimé à en crever, d'avoir failli y passer avant de me sentir exister. Regret du geste qui ne m'a fait gagner qu'un aller simple au pays des merveilles à tout juste 20 ans. Mais comme tout a une fin, j'en suis revenu, je suis revenu de tout. Regret à l'époque de ne pas avoir forcé sur la dose de narcotique, parce que pour l'alcool, je n'ai jamais eu besoin de me forcer. Regret d'avoir réussi mon accident de la route, mais d'avoir raté ma tentative de suicide. Regret de t'avoir vu dans ses bras. Regret de ne pas avoir fait un bout de chemin plus long avec ton scooter. Regret d'être resté pour assister à l'incendie de nos projets, maison, mariage, bébé, et de céder au vent qui, d'une rafale, a rasé ce que nous avions mis 8 ans à construire, a dispersé ses cendres sans que j'essaye de rattraper quoi que ce soit, sans que je tente de te retenir, toi. Regret d'avoir envie de tout brûler, regret de ne pas parvenir à pardonner, regret du silence qui s'est installé une paire d'années. Regret d'être rentré plus tôt que d'habitude ce soir-là, d'avoir poussé la porte de la chambre à coucher, alors que l'intuition qui me cisaillait les tripes m'assénait de n'en rien faire, de tourner les talons et de prendre mes jambes à mon cou. Regret de ne pas avoir eu le temps de vous présenter la bonne, les anciennes. Je ne sais pas si elle existe. Sachez que j'ai arrêté de chercher. Regret de ne pas pouvoir m'empêcher de replonger. Irrésistible ivresse qui restera ma première et dernière compagne, nous n'arrêterons jamais de convoler en juste noces. Regret d'avoir récidivé. Limoges, musée Adrien Duboucher, mars 2007. Les pompiers se rappellent à mon bon souvenir. Regret de ne pas avoir cru les médecins qui me menaçaient de la crise. La belle au bois dormant a vite été fixée. J'ai disparu pendant 48 heures. Regret que le choc n'ait finalement eu aucune conséquence intellectuelle et corporelle, si au moins ça avait pu servir de leçon. Regret de ne pas avoir compris à temps que tomber du scooter m'avait réanimé, que l'accident m'avait fait renaître, m'avait offert une seconde chance. Regret d'avoir entraîné toute ma famille avec moi dans cette catastrophe, dans cette hécatombe. Regret d'avoir pendant 90 jours troqué mes jambes contre 2 roulettes. Il faut croire que j'ai un faible pour tout ce qui roule. Regret de m'être nourri, vieillard avant l'heure, de purée et de gelée, mais de bouffer du cacheton à tire-larigot. 3 variétés de médicaments, rien que ça. Trileptal 150 mg, Dépakote 500 mg et Norset, entre autres joyeusetés. Habituellement, c'est un autre genre de pilule que j'affectionne. Regret de perdre la mémoire, d'apprendre après coup que mes souvenirs se sont fait dévorer par des trous noirs, de ne même plus savoir écrire mon nom, foutu orthographe. Regret d'être ce que l'on appelle en se croyant classe un cérébro-lésé. Tout à fait, madame, mais je peux vous dire que ce n'est pas à la portée d'un Pékin moyen. Regret que mon cerveau soit malade, d'abord congestionné par des lésions aussi grosses que les veines d'un toxico, qu'il se noie dans son propre liquide électrique comme des poumons qui auraient bu la tasse. Une tasse remplie à ras-bord de whisky, mais pas plus que le bord, hein, c'est la consigne. Regret d'avoir mis 17 jours à me décider. Si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être prolongé un peu. Regret que mon baptême de l'air ait résonné au rythme des pales d'un hélicoptère, cadence digne d'une teuf, après avoir été bercé par une telle musique, pas étonnant que je sois devenu épileptique. Regret que l'on ait tourné pour rechercher un suspect, un fuyard, un branleur, mais pas un mec dont il ne restait plus que l'œil droit. La maréchaussée aura dit ce qu'elle voulait. Je ne gobe toujours pas sa version. Regret d'avoir fermé les yeux comme sur l'autoroute avant la collision. Elle m'a fracassé la gueule, cette collision. Regret de m'être endormi, d'avoir sombré comme au beau milieu d'une conversation. d'avoir quitté la partie, à l'insu de mon plein gré, hein, ça va de soi. Regret d'être désormais une gueule cassée artistique, telle une toile de Picasso, balafrée comme Frankenstein, et d'une certaine manière d'y avoir survécu. Le premier combat de ma vie, mais mon arène avait le goût du bitume. Le premier combat de ma vie, mais pas le dernier. Regret de ne m'être jamais couché aussitôt pour l'ultime matin de mon monde. Regret d'avoir laissé tout un pan de mon royaume en une nuit tomber en ruine. Regret de ne pas avoir réussi ma vie telle que je voulais la réussir. Regret d'avoir répondu à l'appel des sirènes éthyliques, d'avoir écouté leurs chants et les laissé m'emporter vers le fond. Toujours ces gros poissons. Regret d'avoir choisi d'entrer dans l'âge dit irresponsable, en grande pompe, accoudé à un comptoir, le museau dans l'auge, et l'alcool qui coule à flot. Seul. Regret d'avoir posé le casque sur ce putain de comptoir. Regret que tu sois passé, que tu m'aies vu élégamment subtiliser ce maudit casque et laissé. Seul. Regret, mais pas condamnation. Je ne t'en veux pas. Regret que vous ayez choisi le divorce au lieu d'essayer de recoller les morceaux, que vous ayez opté pour la séparation plutôt que de tenter de réparer, que vous ayez tout jeté à la benne. J'aurais aimé que vous répariez. Mais parmi tous ces regrets, quelques merci. Merci à toi, mon ami reptile, mon naja ancré, mon serpent tatoué. Sans toi, j'étais en route pour la fosse commune. Encore une entrée dans l'ère adulte par la grande porte, tiens. Merci à toi, chirurgien, reconstructeur de l'extrême. Ma bouche te doit aujourd'hui de s'ouvrir, d'inspirer, de croquer, de parler, de chanter, de gueuler. Mes yeux te doivent aujourd'hui de s'ouvrir, de regarder, d'observer, de contempler le quelque part, de se fermer, de me permettre de dormir, de rêver et de regretter. Maxime Lajoigny. Lettre à toi. Bonjour maman, c'est Alilou qui t'écrit. J'espère que tu vas bien ainsi que toutes celles et ceux qui sont avec toi là-bas. J'espère qu'ils font en sorte que tu ne t'ennuies pas. Te rappelles-tu ces billets doux que tu disposais partout dans ma chambre? L'autre nuit, je les ai tous retrouvés, et je les ai tous rangés dans mon coffret à bijoux. En fait, j'ai même enlevé tous mes bracelets de perles de rocaille pour leur faire plus de place. Ce sont mes bijoux, maintenant. C'est normal, ils sont aussi précieux. De temps en temps, je les relis lorsque ton absence est trop douloureuse, en fait. Car pour tout paragraphe d'adieu, tu ne m'as laissé que 3 lignes. C'est si peu. Et tu ne devineras jamais ce que j'ai retrouvé aussi. Un jeton du casino d'Alvignac. Je n'ai pas pu résister, j'ai souri, j'ai ri quand je l'ai vu. J'adorais tellement quand tu m'as tablé au plateau de jeu avec toi. Je me sentais importante, intelligente, adulte. Personne ne fait plus ça pour moi ici aujourd'hui. Même si toute ma famille que j'aime beaucoup énormément est là au quotidien. Je garde ce jeton jalousement dans ma poche de pantalon. Je n'ai pas non plus effacé ce message que tu as laissé sur le téléphone fixe de Tati. D'ailleurs, je lui rappelle tous les jours de ne pas l'effacer. Écouter ton message vocal sur le répondeur me donne l'impression que tu es à mes côtés, avec moi, là, que tu te caches quelque part dans la pièce, que tu t'approches à pas de loup. D'un coup, je n'ai plus froid. Quand j'ai chaud, je sais que tu es près de moi, je le sens, je te sens. En fait, je te sens tous les jours. Quand reviennent le printemps, les feuilles vertes et les arbres en fleurs, les abeilles et leur miel et le soleil, je respire la joie. Tout le monde me le répète. Et je sais que tu y es pour quelque chose. Je sais que c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Tu as le pouvoir de commander aux saisons comme un chef d'orchestre. D'un coup d'archer, tu donnes leurs consignes aux animaux, aux petites bêtes et aux plantes pour qu'elles refassent tourner le monde normalement. Alors que lorsqu'il pleut et qu'il fait froid, lorsque tout est gris, mon cœur est bleu peine. De même, je regarde en boucle cette vidéo de nos vacances à Mimizan. Et je sais bien que ce n'est pas vraiment toi, que ce ne sont que des images, des sons. Mais je te vois bouger, et j'entends ta voix, et cela me fait du bien. Le manque de toi s'estompe. Si on m'avait dit un jour que je chérirais une cassette vidéo, je ne l'aurais pas cru. Tu te souviens, en 2009, de ma dépression et de mon hospitalisation à Brive et à Limoges? Le centre s'appelle Esquirol, je crois. J'avais 17 ans. J'ai parfois peur que la dépression revienne, maintenant que tu n'es plus avec moi. Mais je sais que ça n'arrivera pas. La schizophrénie, par contre, est toujours là. Tu te souviens aussi que depuis l'âge de 18 ans, je veux me marier et avoir un enfant? J'aimerais tant me marier, mais Geoffrey ne veut pas. Car je suis encore avec Geoffrey, ça fait 10 ans maintenant, et il y a 1 an et demi, je suis allé vivre avec lui. Il travaille toujours au centre d'aide par le travail du sel, tu sais, dans l'usine de carton. Au bout de 10 ans, je suis plus que jamais amoureuse, tu te rends compte? C'est l'homme de ma vie, j'en suis sûr. C'est l'amour, le vrai. Mais Geoffrey me chagrine, il ne veut pas d'enfant. Enfin, pas pour l'instant. Des fois, je regrette qu'il soit comme ça, mais il changera d'avis. On m'a déjà dit que je ne pourrais jamais faire le métier de mes rêves, sage-femme. Et ça aussi, je le regrette. Ce n'est pas pour qu'il s'y mette et m'enlève à son tour l'un de mes souhaits les plus chers. Je voudrais tellement faire ton bonheur et ta fierté avec un enfant, maman. Et s'il ne s'agit pas du mien, au moins aider une autre femme à mettre le sien au monde, coucher ce petit corps entre ses deux parents. Ça aussi, ça me manque, des parents. Parfois, je pense à papa. J'aimerais avoir des renseignements, savoir s'il va bien, s'il ne va pas bien, où il vit, s'il travaille. Je regrette évidemment qu'il m'ait fait du mal, mais de temps en temps je pense à lui. À l'école, je ne disais rien, je ne voulais pas parler, je baissais mes manches et les marques s'évanouissaient. Comme moi, à la cantine, de temps en temps, lorsque je n'avais pas petit déjeuner le matin, parce que j'avais quitté la maison trop tôt et en courant. Alors ça gargouillait toute la matinée dans mon ventre. Une fois au self, je mangeais beaucoup trop et trop vite, tandis que je me levais pour aller en remettre dans mon assiette, tout se mettait à tourner devant moi autour de ma tête, une farandole de points lumineux semblables à des étoiles et puis plus rien. Le noir total. Avant que je ne rouvre les yeux, le surveillant me portait de toutes petites claques. J'ai souvent eu l'impression qu'il ne voulait pas vraiment que je me réveille en fait. Comme cela se produisait régulièrement, on ne m'emmenait plus à l'infirmerie à force. Tomber dans les pommes à la cantine, c'est drôle quand on y pense, non? Ce père n'est pas mon plus grand regret. Mon plus grand regret, c'est toi. Mais c'est plus fort que moi, j'ai gardé sa photo, et lorsque je me crois seul, je la regarde. Je pense souvent à notre famille et je l'imagine autrement, différente, avec un père qui arrête de taper. Quelqu'un m'a dit l'avoir rencontré en prison. J'aurais pu aller le voir au parloir aussi, mais je reste en état de choc, perturbé. Je n'avais que 4 ans. Dans le salon, chez Tati, sur le meuble TV, il y a un cadre avec une photo de toi à l'intérieur, avec ta frange épaisse et tes yeux soulignés de noir, apprêtée et coquette, tu es belle. Tu as été belle à tous les âges, très soigneuse de ton apparence, très soucieuse de ta personne. Assister à la lente chute de ces 6 beaux cheveux m'a crevé le cœur. Maman, si tu savais à quel point je regrette. Je te revois encore dans ton lit et cette vision me serre la gorge, m'amène une boule au ventre. C'est par ma faute si je t'ai perdu, si tu m'as quitté et ne reviendras jamais, je suis une idiote. Quand je dis ces mots horribles, quand je me tire les cheveux et crie, Tati prend mes poignets dans ses mains, les met sur mes genoux et chuchote à mon oreille que ce n'est pas vrai, que je ne suis pas responsable. Elle me fait me balancer d'avant en arrière comme pour me bercer et je me calme. Au début, avec Tati, c'était compliqué. Quand tu es parti, je me suis installé chez elle et j'y ai vécu 6 mois. Mais plus le temps passe et moins les crises arrivent. Comme avec les autres, c'est moins compliqué. On me dit que je suis moins impulsive, plus tempérée, et je sais pourquoi. Je m'apaise dès que je pense à toi, je t'imagine et te sens à mes côtés, ta chaleur tempère ma colère. J'aurais dû appeler le docteur plus tôt, je me le enfonce dans le crâne tous les jours. Je me rappelle lorsque je te lavais les cheveux, le blanc de tes yeux est soudainement devenu jaune. Tu m'as semblé si petite dans cette baignoire, à moitié vivante. Ils ont dit que ça partait de ton foie, ça a été fulgurant, tu as mis 6 mois à mourir. Je regrette tellement, maman, de ne pas avoir appelé le médecin plus tôt. Au cimetière, je parle à ta tombe. On me l'a déjà dit, oui, ce n'est que du minéral, du marbre qui ne respire pas. Mais ton prénom est inscrit dessus, et quand je touche la pierre, je sens ton étreinte. Quand je m'assois en face, j'ai l'impression d'être en tête à tête avec toi, comme si nous dînions ensemble. Tu te rappelles? Tu me faisais de la soupe, de la blanquette, des pizzas, des gâteaux au chocolat, au yaourt et à la pomme, des crêpes, des merveilles. C'était bon. Du coup, cela fait plusieurs semaines que j'apporte mon repas au cimetière. De cette façon, je pique-nique avec toi. J'ai même acheté une jolie nappe avec des motifs de violettes et de flocons de neige. Je recouvre la pierre et je m'installe, c'est quand même plus confortable. Des fois, des personnes en deuil qui circulent dans les allées me lancent de sales regards et font des commentaires. Mais je ne les comprends pas, ils parlent trop bas. Mais je ne suis pas toujours seul. Des fois, toute ma famille est là et nous te parlons en pensée. J'ai l'impression que nous communions avec toi. Aucune baguette magique, aucune marraine ne te feront jamais revenir, je sais. J'espère seulement que tu recevras chacune de mes lettres, que tu les liras d'une manière ou d'une autre, et que tu y répondras d'une manière ou d'une autre. J'attends toutes tes réponses avec impatience. C'était Lilou, maman, qui t'écrivait depuis la terre, que tu as quittée voilà maintenant 3 années. Lorsque je lève les yeux au ciel la nuit, je sais que tu es au nombre de ces étoiles. Je sais que tu me regardes et veilles sur moi. Italique. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es gravé dans mon cœur. Tout va bien, maman. Fin des italiques. Lilou. Rêves à regret. Romane dort et son sommeil est agité. Elle se réinvente au milieu des livres, une librairie pareille à celle dans La Belle et la Bête. Cette fois, c'est elle qui fait coulisser l'échelle sur l'étagère, c'est elle qui attrape les romans. Pour cette raison, elle est très contente de son prénom. En enlevant un E, elle se change en livre, elle peut se refermer si elle le souhaite et ne jamais se rouvrir. Qu'ils essayent alors de s'en prendre à ses pages, de les mordre, de les déchirer. Rien n'est plus solide qu'une bonne couverture rigide, lestée. Il faut ça pour contenir les mers et les monstres, tenir à distance les reines infanticides, les pirates et leurs jambes de bois, les camarades de cour d'école qui tirent les cheveux et crachent dans la capuche. Ici, c'est elle qui parle, c'est elle qu'on écoute. On vient, depuis les régions les plus reculées, recueillir ses avis de lectrice aguerrie. Caresser du regard son œil expert posé sur un ouvrage à la reliure de velours. On est ébloui par son savoir, par cette légèreté gracile qui la fait circuler entre les rayonnages, voguer entre les bibliothèques. On boit ses paroles religieusement, elle est la Bible vivante de ces lieux. Benzoni, Lévy, Musso, Dupuis la taquinent et la tutoient, elle les recommande et joue le rôle d'entremetteuse. Elle est une commerçante polyvalente, une vendeuse compétente, une négociatrice à l'aise, hors pair, réactive. Elle a ouvert sa petite boutique dans le sud de la France. Son enseigne se compose d'un ours en peluche et de tournesols, son moyen à elle d'accorder enfance ses places au soleil, passé et présent. Sa devanture est vert olive aux moulures décoratives épaisses et rassurantes, et reposant sur 2 colonnes qui impressionnent suffisamment pour dissuader les monstres de s'approcher pour tout détruire. Elle a attaché une petite sonnette à la porte d'entrée au cas où elle serait au fond du magasin, en train d'enregistrer les derniers arrivages, qu'elle puisse entendre entrer le client impromptu. Ainsi qu'une pancarte. « Je reviens dans 10 minutes », qu'elle n'utilise jamais par conscience professionnelle. Dans la rue, tout le monde la connaît. Elle est appréciée par ses collègues pour sa bonne humeur quotidienne, son efficacité et son aptitude à aider les autres. Elle déplace des montagnes de gentillesse, accomplit des miracles de générosité, se plie en 4, fait des merveilles avec son esprit. Elle, la poufiasse, il a fallu qu'elle recommence, qu'elle revienne cogner au carreau, inspecter l'intérieur de ses petites billes de pie voleuse, avide, cupide, appelée par tout ce qui brille. Roman irradiait, c'est probablement ce qui l'aura attiré jusqu'ici. Et comme à chaque fois, le magasin est inondé. Cela démarre toujours au même endroit. Les tentures qu'elle a hissées de part et d'autre de la vitrine deviennent plus foncées et plus lourdes sous le poids de l'eau. Le plancher gonfle et éclate. Roman ouvre les paupières. Sa chambre au rez-de-chaussée est silencieuse et vide, la place à côté d'elle dans le lit est froide, immaculée, les draps n'ont pas été retournés. Il va falloir qu'elle se lève, se lave et prenne le train pour aller au travail. Une journée a passé dans la complexité du monde ordinaire, au milieu de ses semblables, inconnus qui font fi de ses qualités véritables. Elle en est maladroite et a l'air inexpérimentée aux yeux de tous. Pourtant, elle maîtrise à la perfection la technique pour mettre le plus rapidement possible le nombre prescrit de gâteaux dans l'emballage carton, détacher les bandes autocollantes et conditionner la boîte avant de procéder de la même manière avec la suivante qui arrive sur le tapis roulant. Une fois l'automatisme activé, elle s'imagine que ce sont des pages imprimées qu'elle feuillette, des couvertures qu'elle referme, et le temps passe plus vite. La nuit prochaine, elle retrouvera sa boutique onirique, sa librairie chérie, son aile ouest, et doucement, sans s'énerver, brique après brique, planche après planche, elle reconstruira, au départ des monceaux, des milliers de livres, ensuite des pavés et des suspensions florales qui flottent jusqu'au ciel. Enfin, un bourdonnement, une clameur qui s'élève rien que pour elle et lui pleure ô combien l'attente ait été douloureuse. Victoire. Dans un deuxième rêve, la poufiaste ne lui a pas interdit d'aimer, c'est-à-dire d'être aimée et aimée en retour, de concevoir et enfanter. À 33 ans, elle a eu une fille, une lumière aux grands yeux noirs, un flocon de neige à la blondeur aveuglante, une princesse aux angles plus étincelants que le cristal, aux oreilles percées et à l'appétit féroce, qui ne lui réclame que des conchiglies et des crevettes. Quoique si elle pouvait ne s'alimenter que de caramel salé et de perles en chocolat, elle serait également satisfaite. Elle est à son image, simple, peu exigeante. Cette fillette la rend fière. Faire la cuisine avec elle, les courses dans les supermarchés, les fast-foods, autant de petits plaisirs quotidiens qui la comblent. Elle lui lâche la bride. Même à un carrefour, Lucie saurait quelle direction emprunter. Leur moment préféré de l'année demeure invariablement le réveillon de Noël. À table, en tête à tête, rien que toutes les deux, seules quelques étoiles en papier brillant et des angelots de cire qui se consumeront jusqu'à minuit les séparent. Elles se sont affairées au fourneau dès l'après-midi et ont enchaîné les appareils à biscuits, les dindes farcies qu'il faut badigeonner de jus de viande régulièrement si l'on ne veut pas que la chair s'assèche, les plateaux de petits fours et les autres salades composées. Somme toute, les présents au pied du sapin ne sont qu'un supplément d'âme. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Lucie vient d'avoir 5 ans, et sait exactement ce qu'elle veut, où elle va et comment s'y rendre. Elle impose ses propres choix. Elle est indépendante et jouit de sa liberté pleine et entière. Elle se débrouille comme un chef sans père. De père, de toute façon, il n'y en a jamais eu. Non pas qu'il n'ait pas été présent, mais il n'a pas pu rester longtemps. La vie a décidé de l'emporter prématurément, malgré tout l'amour qui les soudait l'un à l'autre. Alors, à elles deux, elles refont le monde. Elles ne se disputent jamais, et Lucie est un vrai moulin à paroles. Elle ne peut s'empêcher de commenter tout ce qui l'environne, tout ce qu'elle voit. Les parcs et leurs arbres déplumés, les passants et leurs mines déprimées, les chiens errants sans laisse et sans maître. Roman doit souvent lui rappeler de ne pas les toucher, ils sont sales et sentent mauvais. C'est d'ailleurs par eux qu'elle finit toujours par les rattraper, toujours sous la forme de cette vieille femme inoffensive, courbée par les rhumatismes, le même panier de provisions du marché à la main qui dévie sa route pour croiser la leur. La poufiasse. Soudain, le cours d'eau qui enserre le sentier déborde, sort de son lit, tandis que Roman retrouve le sien au sec, les yeux ouverts sur le plafond grisâtre et la lacune de son existence. Les cailloux, les racines et leurs bottes de caoutchouc ruisselantes se sont effacées. Dans moins de 24 heures, la mère et la fille seront de nouveau réunies, Il lui faudra simplement en passer par un parcours semé d'embûches, être roulé dans la boue avant de franchir la ligne d'arrivée et de mériter sa récompense. Rien qu'elle ne sache déjà, rien qu'elle n'ait déjà fait, ne fasse tous les jours. Elle saura le refaire, elle peut être fière d'elle. En songe, le troisième et dernier, Romane est entourée d'une famille nombreuse et aimante. Elle n'est plus la mère, le modèle, l'exemple à suivre et à reproduire. Maintenant, c'est elle l'enfant, la benjamine de quatre grands frères protecteurs et coquins qui la tyrannisent autant qu'ils la défendent. Des pics de muscles inébranlables et indestructibles. Des parents très pris mais présents, bien réels, concrets. Un papa et une maman qui s'expriment, animent des débats pendant les repas, communiquent entre eux et avec leurs enfants, avec leurs filles, avec leurs plus petites qui lui expliquent le pourquoi des choses, les concepts d'amour et de justice, de bonté et de pardon, qui répondent à ses questions, qui lui réservent des billets d'avion et l'emmènent en voyage. Elle grandit dans une ambiance qui tient à la fois du nid et du cocon. Tous les éléments sont rassemblés pour l'élever et lui faire prendre de la hauteur tout en la préservant des coups de dents extérieurs. Lorsqu'à la fin de sa vie elle se retournera vers le passé, elle ne pourra que constater le trop-plein d'amour et de bienfaisance dont elle aura été abreuvée. Elle se sent particulièrement proche de la mère, veut s'en faire aimer, cherche son regard et lui destine la moindre de ses attentions. Elle-même deviendra une jeune femme abordable et disponible, ouverte d'esprit et altruiste. Pourtant, à un moment du rêve, la mère finit toujours par se métamorphoser. Ses yeux s'allongent et s'étirent, jusqu'à ne plus ressembler qu'à deux fentes. Romane ne croise plus ses pupilles dans cet interstice sans teint. Ses joues se creusent et s'émacient, laissant les os des pommettes saillir dangereusement, et des lèvres démesurément taillées lui mangent le visage. Carnassière embusquée qui tente de happer ce qui passe à proximité de son périmètre de chasse. Romane sait lui échapper, mais sa course ne la conduit qu'à cette pièce aveugle, dans laquelle elle devra dès le lendemain, avec tact, paisiblement, tout réinventer, tout reconstruire. Elle s'imaginera au milieu des livres une librairie pareille à celle dans La Belle et la Bête. Elle fera coulisser l'échelle sur l'étagère, elle attrapera les romans, elle retrouvera son aile ouest, loin des reines infanticides et protéiformes, loin des vieilles femmes aux pains empoisonnés, loin de la poufiasse. La nuit prochaine, elle rêvera à ses regrets, à ce métier, à cette maternité, à cette vie de famille désenchantée. Romane. Un regret nommé marraine. Jacques a 56 ans. Alors qu'il n'est âgé que de 6 ans, ses parents, allant de dispute en dispute, parfois devant l'enfant, finissent par se séparer. Plus précisément, la nouvelle compagne de son père, qui oblige le petit garçon à l'appeler marraine, met sa mère à la porte du foyer familial. Jacques ne la reverra que plusieurs décennies plus tard, au cours d'un mois de juin, après qu'elle ait disparu, changé de nom, après qu'elle se soit remariée et qu'elle ait eu une fille avec son nouveau compagnon, après qu'elle ait été finalement retrouvée en 2000. Par la suite, Jacques voit son destin emprunter la trajectoire d'un conte de Perrault. Son père épouse en seconde noce marraine qui très rapidement adopte tous les codes de la mégère acariâtre. Parce qu'il est atteint d'une déficience mentale et d'une maladie dermatologique très handicapante, problème génétique qui se manifeste par des boutons et une odeur désagréable, celle-ci n'a de cesse de rabrouer et d'humilier son beau-fils. Il se souvient de ses injures, sale môme, sale mouflet, sans s'attaquer pour autant à ce handicap mental. Il faudra attendre 1991 et sa rencontre avec le docteur Raymond pour qu'il lui soit permis de mieux vivre au quotidien, avec cette maladie de peau jusqu'à la rendre quasi insoupçonnable aux yeux d'autrui. Cependant, marraine accorde une parenthèse enchantée au père et au fils, vite devenu insupportable à sa vie. En effet, elle les autorise fréquemment à sortir juste tous les deux, moments de liberté dont ils profitaient pour aller au restaurant, au cinéma, à la fête foraine, au marché le samedi matin, acheter le roast beef pour le dimanche midi, jouer au flipper à 5 francs dans les bars, etc. Bon, ça, c'était pour le happy ending. Parce qu'en réalité, ma reine les met tous les deux dehors le temps d'une journée, exactement comme elle a mis la mère de Jacques à la porte quelques années auparavant. Jacques a vu régulièrement son père jusqu'à sa mort en 1993. Ma reine ne mourra, quant à elle, 11 ans plus tard, libérant définitivement Jacques de son regard mauvais. Pour Jacques, le regret apparaît après que nous ayons mal fait certaines choses. Le remariage avec ma reine est un de ceux-là, non pas qu'il envoyait son père, mais cette nouvelle union a été la source de tant de souffrances, pour Jacques comme pour son père, qu'il ne peut cautionner cette décision du parent adoré. Paradoxalement, il ressent son décès comme un autre de ses regrets. Lui a-t-il dit tout ce qu'il avait à lui dire? A-t-il vécu assez à ses côtés? Que leur restait-il encore à faire ensemble, à partager, à échanger? À ce titre, Jacques justifie son choix de travailler sur le regret en remontant aux origines étymologiques du mot, à savoir ce chagrin, cette lamentation causée par l'absence d'un proche, par la mort de quelqu'un. Autre objet de regret, ne pas être un oncle plus présent pour les deux fils de sa sœur, ses neveux de 16 et 8 ans. Et certainement espère-t-il secrètement que ma reine, là où elle est maintenant, est elle-même rongée par les regrets, le remords et le repentir. Jacques est resté profondément marqué par un film, Le Grand Chemin, réalisé par Jean-Louis Hubert, qu'il a vu et revu pendant des années. Comment ne pas interpréter dans cette trame familiale pesante la recherche de l'affection maternelle, celle-là même qu'apporte Marcel à Louis et dont a durement manqué Jacques auprès de ma reine? Comment ne pas reconnaître, dans la complicité qui unit Louis et Pelot, les relations privilégiées qu'entretenait Jacques avec son père? En définitive, comment ne pas lire dans le motif de l'enfant mort-né de Marcel et Pelot la disparition de la propre enfance de Jacques, contraint de grandir trop vite par le désamour et la brutalité d'une belle-mère, qui l'empêchait d'exprimer le moindre sentiment. Ce long métrage a donc permis à Jacques de projeter à travers la fiction, de vivre par procuration son modèle de famille idéal et regretté. Jacques. La maîtresse inadaptée. Prenez mes affaires, prenez mon handicap, et essayez de faire les choses. Vous verrez comme c'est difficile. Romain a 30 ans et habite en Corrèze, dans la commune de Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Bien que travailler sur le regret ne relevait pas à proprement parler d'un choix, ce sentiment demeure néanmoins la voie royale vers la traduction de ses déceptions, de ses peines. Le regret désigne la contrariété causée par la non-réalisation d'un désir. Il le définit comme étant « la chose que tu veux faire, mais tu ne peux pas ». Il ne sait ni lire ni écrire. Écrire à quatre mains ses regrets reste donc le meilleur moyen de passer outre son illettrisme. De sa venue au monde, Romain confie un franc sourire aux lèvres « je suis né bizarrement ». Tandis que sa mère est au volant, un accident de voiture la force à freiner brusquement. La ceinture de sécurité sectionne le ventre rebondi et le fœtus est étouffé. En pleine hémorragie, la mère et l'enfant sont héliportés vers l'hôpital où un docteur un peu trop rapide en besogne annonce leur décès à un père dévasté. Cependant, le nourrisson est placé en couveuse pour qu'on lui redonne de l'oxygène et qu'on relance son cœur. Cette histoire, digne d'un roman d'aventure, mêle en scène de terreur routière, quiproquo et naissance miraculeuse, lui a été raconté par ses parents et sa sœur Valérie. Car Romain n'est pas fils unique. Il est entouré de ses deux frères, Benoît et Laurent, et de cette sœur aînée avec laquelle il cultive un lien particulier. Valérie est à la fois sa parente, son amie, sa confidente et l'institutrice bienveillante qu'il n'a jamais connue. Ainsi lui a-t-elle appris les rudiments d'une vie autonome que sont cuisiner, prendre le bus ou encore faire les courses, autant de tâches lui permettant de se sortir de l'engrenage de la cistana, mais, comme dans toute famille qui se respecte, adviennent aussi des coups d'éclat, des disputes. Il y a quelques années, Valérie et son frère, en plein désaccord, ne se parlent plus pendant près d'un mois, ce qui constitue encore une source intarissable de regrets pour celui-ci. Dans son esprit, rien ne se place au-dessus de la famille, de cette famille qui l'a porté et le porte encore, à laquelle il doit tant tout en lui apportant tellement en retour. À l'école maternelle, on n'aurait pas misé un copec sur Romain. Sa maîtresse, plus particulièrement, ne veut pas s'occuper de lui en raison de sa différence, parce que des gestes en apparence anodins tels que marcher et aller aux toilettes ne lui sont pas évidents, il est rapidement laissé de côté, envoyé au coin comme le cancre de la classe. L'essentiel de son apprentissage consiste en plus d'heures de sieste forcée que n'en prescrit le ministère de l'Éducation nationale. Pire, il est puni pour cette même différence, apeuré, terrorisé, en état de choc, malheureux, et le retard scolaire s'accumule. Par ailleurs, il n'est pas le seul souffre-douleur de cette enseignante aigrie et incompétente. Une camarade de classe, fille de gendarme, est l'objet de semblables humiliations réglementaires. C'en est trop pour les familles, et la grogne monte. L'inspection académique est saisie et intervient. La maîtresse nulle quitte l'établissement scolaire. Par la suite, c'est un maître qui fait cour et Romain se sent enfin et à juste titre aimé. Adulte, il sera encore hanté par son échec scolaire, ce regret de n'avoir pu apprendre à lire et à écrire, de n'avoir pas assez appris tout simplement, en dépit de cette volonté, de cette combativité chevillée au corps, malgré les bonnes fées ponctuelles telles Isabelle et Dante scolaire qui se sont penchées sur lui en tendant une main ouverte, d'autant plus que ses capacités sont certaines. Doté d'une très bonne mémoire, optimiste mais pas capricieux, le moindre obstacle est une injure à son obstination. Actif, il ne peut rester en place à la maison sans rien faire, et redoute le jour où il ne pourra plus se déplacer seul. Son maître mot est l'acceptation. Accepter son sort, accepter les gens tels qu'ils sont, accepter la douleur, ne pas ignorer la sienne et entendre celle des autres. Quand la personne ne va pas bien, on le voit, c'est comme un livre. Il ne faut pas l'apprendre à l'envers, remarque-t-il. Pourtant, lui-même se laisse parfois envahir par les idées noires de l'injustice, de la colère et du regret, par le regret de ne pas avoir d'enfant. Sera-t-il suffisamment intelligent ? Regret de cette paternité avortée, par la peur de décevoir, la peur du regard d'autrui. Si l'une de ces bonnes fées du passé lui proposait aujourd'hui une baguette magique et un souhait à exaucer, Romain ne formulerait qu'un seul vœu, immanquablement, apprendre à lire. Ce qui apparaît à la majorité d'entre nous comme inné et si lointain, que nous ne gardons que des souvenirs flous des prises de parti opposant méthode globale à méthode mixte, revêt la forme d'un véritable « Sésame, ouvre-toi » à ses yeux. Apprendre à lire signifie déchiffrer un cadran de montre et donner l'heure à cet inconnu pressé qui s'informe du temps qui passe en courant. Apprendre à lire rime avec passer son permis et conduire. Apprendre à lire ranime l'avenir et ses projets professionnels. Il rêvait d'officier dans la mécanique soignée, derrière son uniforme d'infirmier attentionné, les moteurs de voitures et de camions. À 10 ans, Romain poursuit sa scolarité dans un institut médico-éducatif, avant d'être inscrit en CLIS, classe pour l'inclusion scolaire, à l'âge de 14 ans. Mais il est déjà trop tard. Les dégâts commis s'avéreront difficiles à résorber. En 2018, Romain est employé d'une entreprise de composition de boîtes de jeux à Terrasson. Au poste de conditionnement et de mise sur palette, ses tâches consistent, à partir d'une boîte de moulage vide, à présenter le paquet à l'endroit et à insérer le calage, la peinture, les 6 peignes, le pinceau et sa protection, la notice et le plâtre, et la cuillère et les différents moules de poupées. Il en est de même pour certains jeux de société dont l'emballage contient un sabot, 2 paquets de cartes et une notice, chaque objet devant répondre à une procédure très précise. Son professionnalisme et sa concentration de chaque instant en font un collègue exigeant et fiable. Il se dit désormais adapté par le travail. À l'EESAT de Malemort, Romain est célèbre pour sa facilité à aborder la gent féminine sur fond de simplicité, d'humour et de finesse. Il inspire confiance, y compris aux plus fragiles, digne des leçons enseignées par Valérie qui donne des fruits à la saveur espiègle et réconfortante.
Italique.
Je suis content de m'en être sorti. Je peux faire quelque chose de ma vie. Aujourd'hui, je gère mon truc. Aujourd'hui, je me sens apaisé, ouvert. Aujourd'hui, j'aimerais apprendre à lire.
Fin des italiques.
Romain, soleil à vous. Requiem pour un conditionnel. J'aurais aimé qu'il entre dans ma vie plus tôt, de la façon la plus fracassante qui soit, en envoyant tout valdinguer, en me laissant là anéanti au milieu d'un champ de jouets cassés, avant que je ne remonte tout, cube après cube, que je n'érige ces gratte-ciels, ces remparts qui me gardaient à l'abri des autres, comme quatre planches bien rectilignes, bien parallèles, bien perpendiculaires. J'aurais dû avoir 15 ans quand il m'a touché pour la première fois. J'aurais préféré que ça se passe au beau milieu des épis de blé qui nous piquent l'épiderme, loin de toute maison, en plein été. J'aurais pu, à l'occasion de cette première fois, lui susurrer dans le creux de l'oreille qu'il ne serait pas seulement le premier, mais aussi et surtout le dernier. J'aurais aimé goûter le sucre de la pêche sur sa langue. J'aurais aimé sentir ses bras musclés se refermer sur moi, toute petite, et me broyer. J'aurais aimé voir ses empreintes s'imprimer sur chaque parcelle de ma peau, comme des bleus dans chacun des recoins de mon corps qu'il aurait jalousement caché, comme sa touche personnelle sur chacun de mes objets, sur chacun de mes meubles. J'aurais voulu que ces années entre nous ne soient pas qu'une simple distance, une inadéquation de nos espaces-temps respectifs, mais au contraire la raison de me savoir éloigné de lui. Son âge est mon antidote, mon contrepoison. En même temps, ces années entre nous me dévastent. Mais à qui en vouloir? À qui pardonner? J'aurais aimé être suffisamment armé de courage, d'injures et de battes de baseball. J'aurais apprécié de ne pas trouver les mots adéquats qu'une fois qu'il avait pris la poudre d'escampette, une fois qu'il était à plusieurs kilomètres. J'aurais aimé ne pas comprendre tant d'années plus tard, alors que je faisais mon lit, et tombé à genoux dans ma chambre sciée par l'évidence. J'aurais aimé ne rien garder pour moi, être capable d'en parler sans sentir les larmes monter au bord des cils et perler sur les joues. J'aurais aimé prendre conscience tellement plus tôt que je n'étais pas seul, que nous n'étions pas seuls, que nous sommes légion. J'aurais aimé accorder à chaque détail son importance, sans non-dit, sans sourire et sans dérision. J'aurais aimé être écouté et être prise au sérieux. J'aurais aimé composer mon harem sans que son ombre ne vagabonde derrière les rideaux, les autoriser à graviter autour de moi sans que ses pieds invisibles ne s'enfoncent dans le moelleux des tapis. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'il va bien, qu'il a possiblement envie de me revoir, que je lui manque. Si jamais il revient dans les parages, soit, je n'y rôderai plus. Avant toi, tous mes matins grelottaient. La ville n'était que cette bulle aseptisée, ce dôme stérile, tendu de tentures plastiques étouffantes, dans lequel marcher faisait l'effet d'être un ectoplasme dévitalisé, une revenante fantôme dans une ville fantôme, circulant dans le grésil et dont les pas font crisser les plaques de gel qui se détachent. Avant toi, actrice ratée, une rivière de nacre au cou et un verre de martini à la main, seule dans ma voiture stationnée sous le balai des flocons de Noël. Avant toi, un monde à l'envers. Rien n'avait de sens, ni ma respiration, ni mes soupirs, ni quatre murs et un toit, ni les draps du nid. Car les choses, les êtres vont par deux. Ainsi, dans cette boule à neige, as-tu récemment creusé ton sillon, et un nouveau crissement a remplacé l'ancien, est devenu familier, le vent a revêtu une robe plus légère, et un banc nous attend tel un chien fidèle, afin côte à côte d'épancher nos sentiments, mettre des mots sur ce que nous représentons l'un pour l'autre. Qu'adviendra-t-il de nous? Serons-nous au nombre de ces âmes vaines en exode? Partagerons-nous leur passé, leur route? Je ne pense pas, ce n'est pas écrit pour arriver. Que puis-je te dire de plus? Que tu vas aller mieux, que tout ira bien, que plus aucun point d'interrogation ne se posera sur tes paupières, que plus aucune question ne demeurera sans réponse? J'aimerais pouvoir. Et te dire qu'aujourd'hui tu ne parais pas plus fatigué, pas plus triste, pas plus vieux, qu'aujourd'hui nous avons la force de construire notre petite maison, celle qui devrait concilier tous les carrefours, ponctuer tous les chemins de vie, que nous pourrions même nous exiler au plus profond du désert, où pas une rose sauvage ne pourrait pousser, nous y trouverions toujours une raison de vivre. J'aimerais que tu m'entendes quand je te renouvelle inlassablement mes vœux d'amour éternel. J'aimerais être celle qui saura te rassurer, te réconforter, te détendre, et chasser au loin et à tout jamais cette peur de la nuit, cette peur du noir, cette peur du lit. Je mise tous nos espoirs sur le temps et ses bons offices, sur nos montagnes émotionnelles, sur le caractère orageux de notre rencontre, sur les frontières nuageuses et incertaines de notre relation, comme sur un cheval boiteux porteur de miracles qui renferme dans la moindre de ses nervures le déluge d'une ultime course, celle qui hisse au sommet du podium celle qui marque la fin d'une ère, celle qui tue. J'aimerais jouer à la poupée, cette figurine de catalogue qui alimentera tes songeries nocturnes, qui ne changera pas, et de ce fait ne te décevra pas, jamais. J'aimerais être à ton image, jumeau issu d'un clonage, à ta taille, grandeur nature en trois dimensions. Non pas un logiciel informatique, un programme virtuel qui déambulerait de pièce en pièce à sa guise, à demi-nu, tout au plus vêtu de sous-vêtements en coton, une cascade de cheveux blonds coulant dans son dos et des yeux à faire bouillonner de jalousie tous les océans du globe, se sachant capter les regards curieux, indiscrets et avides qui viendraient à passer dans la rue, mais des tissus solides, stables et fiables, une chair hydratée, souple et élastique, recouverte de peau parcheminée aux arômes de pâtisserie, à mi-chemin entre l'est et l'ouest, les yeux de ton torse qui me fixent, des poignées dont émane cette essence ô combien euphorisante, boule d'énergie qui se déplace à la vitesse de la lumière, cocktail vitaminé de fraîcheur à matin d'été, d'écorce centenaire et de cuir tanné, des mains rompues au travail et des phalanges couronnées, calice contenant des torrents d'indomptable violence. Un corps chaud aux effluves épicés et poivrés, combustible dissimulé derrière ces écrans de fumée, miettes de tabac caramélisé, chocolat encore fumant, ardent. Une démarche élégante et cette droiture extrême, mâle, de la discipline 24 heures sur 24. À tes côtés, j'aimerais m'endormir. Fermer les yeux à la mémoire remplie de visions d'outre-monde, et les rouvrir sur un récif de méduses excitées, harcelées par des rangées de dents acharnées, les profondeurs marines vibrant comme un tympan collé contre la caisse de résonance d'un piano oublié. À tes côtés, j'aimerais me réveiller nouvelle, avoir vécu au moins une fois une révolution totale, ne plus jamais me recroiser dans les noirs miroirs d'autrefois. Plus légère, délestée, vidée, asséchée, glacée par des lunes passées dans une caverne verrouillée de l'intérieur, mécanismes et rouages inoxydables n'ayant jamais servi le cœur minéral. Enseigne-moi l'impassibilité, la supériorité, l'absence de regret, et je me ferai l'effet d'incarner l'idéal, parfaitement apéritive. Sois ma valeur ajoutée, un avant-goût d'éternité. Si à la perfection je n'accepte pas, dématérialise-moi, jure-moi que tu as semé ces miettes de tabac caramélisées sur ton chemin, que je pourrai courir aussi vite que les étoiles, que ma ligne d'arrivée sera le ciel, que les portes de l'Europe nous seront ouvertes. Promets-moi qu'un jour le temps n'aura plus d'emprise sur nos sommeils et nos semaines, que la fatigue disparaîtra, que la pluie cessera, que je ne passerai plus une nuit seule et que 9 vies ne suffiront pas à t'éloigner de moi, que tu écriras mon futur en lettres roses, mais que nous ne serons pas nos parents. Jure-le-moi, et je m'évertuerai à faire l'impasse sur cette enfance acide, Sur cette adolescence amère, je tenterai d'oublier que j'ai raté le coche, que l'on m'attendait au tournant, mais que j'ai manqué le virage, et que le retard s'est accumulé, que je n'ai pas eu le cran de tout essayer, que toutes ces années sont perdues. Promets-le-moi, et je n'aurai plus peur de vieillir. J'accepterai de consommer, d'épuiser les grains du temps, de voir sa taille de guêpe s'épaissir, s'arrondir, de croquer, de dévorer, de mordre et remordre encore et encore à pleines dents dans ses hanches bombées, dans ses poignées d'amour. Promets-le-moi, et j'oublierai comment s'écrit le mot regret. Aude Courty.
Le désir. Introduction. Avant même de m'engager sur ce terrain, je soupçonnais que la porte serait étroite. Et à vrai dire, je redoutais par avance ce qu'il allait advenir et la manière dont les tranches de vie s'ordonneraient au fil des témoignages. Le thème choisi, parmi d'autres, sur la palette des sentiments, fut le désir. En apparence, un sujet sans complication, sinon celui de nous tous. Les premiers mots que nous prononçons au seuil de la vie expriment déjà des désirs, mais nous ne savons pas encore qu'ils ne seront pas tous comblés, bien peu en vérité. Et pour les atteindre, nous serons amenés à des compromis sans fin, des marchandages, des colères, des bouderies, des jalousies. Aucune de nos attitudes ne sera gratuite pour atteindre l'inaccessible par tous les moyens. Jean-Marc, le premier à qui j'ai prêté ma plume, est entré dans son histoire en tâtonnant. Comme je le comprends. Il y a un risque à s'exposer, à se mettre à nu, surtout lorsqu'on sait ce qui se cache derrière la porte étroite. Des événements souvent repoussés, rejetés, des sentiments indicibles, de ceux qui nous déchirent l'âme. Et pourtant, il me fallait y aller avec lui, sans lui tenir la main, forcément, sans brusquerie, presque à l'aveugle. Je ne savais pas s'il me suivrait jusqu'au bout, mais Jean-Marc s'était préparé pour ce voyage à l'intérieur de lui-même. Il avait compris que je n'étais pas là pour le juger, pour le piéger, mais simplement raconter sa vie. Le mal-aimé, l'idiot de la famille, celui qui n'ose se défendre devant un père autoritaire, c'était lui. C'était nous, nous tous. Je me suis reconnue dans Jean-Marc et d'autres assurément aussi, même si les uns et les autres, nous n'avons pas suivi le même chemin. Et ce père qui lui a fait défaut, qui lui a tellement manqué, qu'il a jugé le jour de sa naissance, sans rémission, comme la faute originelle dans l'histoire du monde, Jean-Marc lui a conservé néanmoins une place dans son cœur. Décidément, l'homme est grand et noble dans la détresse, me suis-je dit en l'écoutant, en cherchant dans ses silences ce qui se cachait encore derrière la porte étroite de sa conscience. Son plus grand regret, ce sera de n'avoir pu lui dire avant qu'il meure combien il l'aimait. Mais heureusement, dans la vie de Jean-Marc, il y aura eu sa mère, une femme au fort caractère, aimante et protectrice, une mère courage en vérité, de celles que nous chérissons tous. Et sans doute, ce sera d'elle qu'il aura tiré la force de vivre. Puis, peu à peu, au travers d'elle, comme un hommage rendu, Jean-Marc se sera réalisé dans le fil de la vie, par le travail et par l'amour. Un amour tardif, certes, mais un amour quand même. la quête de l'amour, d'un grand amour. C'est par lui qu'Adeline tire sa force de vivre. Elle l'a désiré, appelé de tous ses vœux, puis a hésité à franchir la porte étroite avant de s'y engouffrer, ne sachant ce qu'elle allait découvrir derrière. Mais la peur de la déconvenue n'a jamais stoppé son élan. Telle est Adeline, si fragile, au regard perdu, parfois rayonnant un court instant, comme si le désir tardait à sourdre de ses sourires et de ses larmes. Je l'ai reconnue comme une sœur lointaine, de celle qui attend votre main et la repousse par pudeur. Certes, me dis-je, nous voudrions l'aider à traverser la vie, mais peut-être, en dépit des apparences, est-elle plus forte qu'on ne l'imagine. Car l'amour invente toutes les patiences, tous les emballements, et parfois semble reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre. À la vérité, Adeline aime jongler avec les sentiments. Ce qui la brûle un moment la ravit ensuite. Ainsi, alternativement, au fur et à mesure qu'elle égrène ses passions, on voit d'elle cette fièvre intérieure qui nous rend l'humain si attendrissant. De nos entretiens, j'ai retenu la souffrance des silences, les mots, toujours les mêmes, qui s'en reviennent, comme des vagues lointaines, cachent ces hauts fonds des splendeurs amoureuses. Aujourd'hui, nous pleurons un amour perdu, ensemble. Nous pleurons sa détresse. Mais je sais que tout s'en reviendra, au rythme des jours, car l'amour ne fait jamais défaut lorsqu'on le cherche jusque dans le bleu du ciel. Runs Cassidy, nom d'emprunt dans l'univers de la bande dessinée, est un sacré personnage. Double ou triple, qui sait ? Insaisissable jusqu'à la dernière touche de lui-même. Il se décrit sans désir, sans passion, sans destin, sans rien. Et pourtant, il existe, Runs Cassidy. Il va d'une ville à l'autre, d'un paysage à l'autre, d'une photo à l'autre. Il va sur un chemin généreux où tout n'est qu'insouciance et bonheur de vivre. Voici un héros du quotidien comme Corto Maltese, traversant les champs de mine de la vie sans jamais se blesser. Un héros semble intouchable, rien ne l'effleure et ne laisse trace sur le personnage. Je me suis amusée à le faire parler de lui-même, sans difficulté. Car pour Runs Cassidy, la porte étroite n'existe pas. Elle est grande ouverte sur le monde. Il chemine inlassablement, sans autre souci que l'air du temps, peu à peu dessinant sur son visage des imperceptibles zones d'ombre et de lumière. Peut-être en ferai-je un héros de roman, plus tard. Un portrait d'homme dans notre époque, après L'homme pressé de Paul Morand, voici l'homme virtuel, c'est-à-dire sans accroche, sans port d'attache, naviguant à la godille dans le détachement total. Qu'importe le poids des jours, puisque le soleil finit toujours par se lever. Le désir d'amour se joue parfois du hasard, sans le contraindre, comme un dessin sur le sable tracé à la va-vite. Et si le temps est généreux, sans tempête ni ride ni vent contraire, il restera pur et cristallin. Geoffrey est le plus heureux des hommes. La porte étroite s'est ouverte devant lui, sur un couloir lumineux, et par-delà sur un vaste espace. La blonde et belle Maëva l'a emporté d'un seul élan. Certes, nous n'aurons pas l'impudeur de les observer plus longtemps, car pour l'heure, un amour sans histoire se conjugue à tous les temps. Et Geoffrey, béni des dieux, monologue sur les promesses des amants, celles qui ont été murmurées dans le secret de leur alcôve. Les amoureux ne supportent les indiscrets, car forcément on jalouse le bonheur. Et moi-même, l'interrogeant, je force sa pudeur à murmurer les mots d'amour, à les livrer en pâture à mon insatiable curiosité. Alors, je me suis retiré sur la pointe des pieds, discret et satisfait. Mal parti dans la vie, Karine n'a que l'amour pour trouver sens à sa vie. Elle a cherché longtemps qui lui correspondrait le mieux, avec opiniâtreté, et de cette quête, elle a trouvé une force de caractère peu commune. Qu'un obstacle se lève, et la voici arc-boutée pour le faire tomber. C'est une belle âme, Karine, franche et déterminée. Elle ressemble à ces femmes qui savent ce qu'elles désirent et mettent tout en avant pour y parvenir. De même a-t-elle dirigé notre entretien, souvent revenant sur un détail, avec ce souci de la précision, comme si elle avait l'impression qu'on lui volait sa parole. Je dois dire que ce fut un moment d'échange riche et passionné. Moi aussi j'aurais voulu connaître Alberto, l'homme de sa vie, un temps perdu de vue, mais retrouvé comme dans les belles et grandes histoires d'amour. J'aurais voulu que notre entretien se fasse à deux voix, deux avis, deux échanges concomitants. Mais là, en vérité, il me faut prendre du champ, humblement, et me retirer du récit de leur histoire. Le reste sera l'apprentissage du bonheur, un mariage, une famille, des enfants, une vraie vie de couple hardiment gagnée sur les décombres de l'enfance. Karine a ouvert la porte étroite d'un geste décidé. Souhaitons-leur à tous deux un bel avenir. Jean-Paul Malaval. Demain nous appartient. Déjà 11 années passées à la chêneraie de Malemort, et seul, si seul, tout ce temps, malgré le désir profond que j'ai toujours éprouvé de connaître quelqu'un avec qui je puisse m'entendre et partager l'existence. Et malgré mes tentatives, je ne suis jamais tombée sur la bonne personne. Voici une situation qui m'a hantée au point de m'interroger si souvent sur les raisons de cette solitude. Serait-ce une fatalité de la vie ou mon handicap qui m'interdirait de vivre une histoire d'amour comme tout le monde? C'est durant ma toute petite enfance, à 16 mois, que j'ai été atteinte par une otite purulente, mal soignée à l'époque ou décelée trop tard, je ne sais pas trop, cette affection m'a provoqué une crise d'épilepsie légère. J'aurais pu, de l'avis de ma famille, à Saint-Sornin-la-Volpe, finir dans un fauteuil roulant. Peut-être que dans mon malheur, il m'est resté une petite chance, une toute petite chance, bien qu'aujourd'hui, hélas, j'en ai encore quelques séquelles. Certes, il y a eu quelques pâles tentatives de relations amoureuses durant ces années à la chêneraie, mais peu intéressantes en définitive. Celles-ci, chaque fois, ont fini par un flop. Sans doute exigeais-je trop des garçons, trop de fidélité, trop d'amour et d'attachement, ce trop les éloignant de moi. Parfois, il est arrivé quelques malentendus aussi, lorsque ces hommes ne s'intéressaient à moi que pour satisfaire leurs caprices personnels, sans amour véritable. Tandis que moi, je ne rêvais qu'à un amour véritable, romantique, passionné, cherchant en celui-ci quelque prolongement heureux par un mariage et une maternité. Décidément, un homme fiable et aimant, était-ce trop demandé de la vie? À chacun de mes découragements, mon entourage me disait que petit à petit, avec de la patience, je finirais enfin par croiser un homme amoureux de moi, prêt à partager mon existence. Avec un peu de recul, je réalise aujourd'hui que c'était là une sage parole. Au Noël 2017 de l'Adapei, à Malemort, nous nous sommes bousculés, Jean Alberto et moi, percutés même, dans le brouhaha de la fête. Un échange de regards, un geste, puis nous avons commencé à parler ensemble, et enfin danser, le coup de foudre. Dès ce soir-là, si particulier, ma vie a changé. Puisque nous sommes ensemble, Jean Alberto et moi, nous nous aimons. Et ce sentiment si fort est partagé, tellement partagé que nous projetons jour après jour à nous retrouver. À vrai dire, j'avais connu Jean Alberto 11 ans plus tôt. De même, me souvient-il, au cours d'une soirée comparable. Mais à cette époque, il ne s'est rien passé. Rien, certes, mais une toute petite chose quand même. J'ai conservé dans un coin de ma mémoire le souvenir de ce garçon. Déjà, je le trouvais beau et désirable. Mais lui, comment me trouvait-il alors? Je ne sais pas. Sans doute que notre union à ce moment ne devait pas se réaliser. 11 ans de perdu, donc. Mais qu'importe. L'essentiel, malgré le temps, les années et les aléas d'un désir inassouvi, est que nous soyons amants désormais. Dirais-je que la vie est bien faite, qu'elle finit par récompenser la patience, la tempérance et combler tout cœur sensible? Je le crois, en effet, puisque j'en suis la preuve vivante. Mon histoire le démontre. Cette valse hésitation entre Jean Alberto et moi a fini par faire de nous un couple. En vérité, j'ai trouvé en lui l'homme que j'attendais dans ma vie, son physique, sa façon de s'exprimer, de se mouvoir, sa gentillesse, ses petits gestes attentionnés, sa générosité, tout me plaisait en lui, sans restriction. Je ne cessais de me répéter « c'est lui que je veux ». Mais dans le même temps, je m'interrogeais pour savoir si lui avait compris ce que je désirais obtenir. Se pourrait-il que je ne sache lui faire comprendre combien je l'aimais? Cependant, il n'aura fallu que 2 ou 3 rendez-vous pour me rassurer sur ses intentions. Et l'avenir maintenant? Je bénéficie d'une chambre à la Chêneraie, tandis que Jean Alberto, lui, handicapé léger, a un appartement en ville. Voici qui est assez malaisé pour que nous puissions nous aimer en toute intimité. D'autant que nous avons tant de projets à réaliser ensemble, tant de rêves à accomplir, je voudrais brûler les étapes, tant le désir d'être toujours avec lui me presse. Nos parents respectifs sont d'accord pour nous laisser vivre notre amour. Mais moi, je suis toujours rattachée au foyer de la Chêneraie, alors que je désirerais partager son appartement. Pour ce faire, il me faudrait sortir de l'institution. Il y a des réticences, tant que nos preuves d'amour ne sont pas affirmées au regard de nos éducateurs, de la curatelle, et que sais-je encore. Les uns me pressent d'attendre, les autres retardent leurs décisions, et nous deux, nous nous impatientons. Pourtant, Jean Alberto fait tout ce qu'il faut pour démontrer que son amour est sincère. Mais qu'importe, je sais que ces barrières-là finiront par tomber. Peu à peu, nous nous rapprochons. On m'a octroyé une autorisation de sortie tous les week-ends pour que je puisse le voir dans son appartement des Chapelis. Ce sont autant de bons moments arrachés à la servitude d'une institution. Par ailleurs, ma curatelle a vu mon amoureux et l'a jugé apte à vivre avec moi. Pour l'occasion, j'ai été son avocat et j'ai su trouver quelques arguments persuasifs. J'ai expliqué ce que j'attendais de mon histoire d'amour. un mariage d'abord, et ensuite un enfant. Un enfant que je voudrais tellement avoir de lui. Et forcément, j'ai demandé à partir de la Chenerey pour m'installer définitivement avec lui, fonder une famille. Rien n'est encore décidé, mais j'ai besoin de garder l'espoir, tant ce désir me porte. Et ne point le réaliser m'achèverait sans nul doute. Je le sais, voici un fort engagement pour la vie, surtout avec la perspective d'une naissance. On s'interroge, on se demande si je saurais élever un enfant. Mais la conception, elle aussi, poserait des problèmes. Ma santé est fragile. Le médecin qui m'a examiné souhaiterait que je perde un peu de poids et qu'on modifie mes traitements. Je crois que les jours de bonheur entre Jean-Alberto et moi sont en train de s'écrire. Certes, je trouve que notre aventure n'avance pas assez vite. En attendant, je patiente, en regardant ma série télé favorite, Demain nous appartient, avec mes vedettes fétiches Laurie Pester, Louane et Mera. Du reste, j'ai écrit à Laurie une lettre sur mon ordinateur. J'attends encore sa réponse. Karine Crousillac. Revenir à zéro. La vie est comme une partie de cartes. On la joue, bien ou mal, selon ses atouts de départ. La mienne, telle qu'elle s'était présentée, c'était perdu d'avance. Et j'ai fini par me tracer une ligne de conduite, ne m'intéresser qu'au jeu et ignorer la victoire. D'autant que j'appartiens plutôt à un genre humain à gaspiller les as dès la première main. Il n'y a jamais eu personne pour m'aimer, il n'y aura donc personne pour me plaindre. Seul donc, toujours seul. Telle a commencé mon existence à Tarbes, par un placement dans une famille d'accueil. Pareil destin pour mes frères et sœurs, seuls aussi, abandonnés, séparés et accueillis dans plusieurs familles de circonstances. Alors, je me révèle en petit garçon solitaire, attiré par la nature. Un lieu où se perdre et se retrouver, où toutes choses semblent en ordre. C'est une belle leçon que celle-ci. J'ai gardé de ces années bizarres le goût pour l'errance, l'aventure, l'inconnu. Je ne peux me résoudre à demeurer longtemps au même endroit. Comme si le temps de l'immobilité en vidait peu à peu toute la substance. Alors je casse ma bulle, comme je dis souvent, et tout devient possible, avec d'autres paysages, d'autres gens, sans que je ne m'attache, puisque rien à l'origine de ma vie ne me rattachait à rien. Je suis un précaire, un homme précaire, un sans destin, sans désir peut-être, ce qui est tout compte fait aussi une sorte de désir que ne rien vouloir sans obligation aucune. J'ai commencé mes pérégrinations à Hendaye. Chouette pays aux odeurs de vacances et de liberté. J'ai campé 2 mois au petit bonheur la chance, au hasard, selon mon inspiration. Ce voyage, ce petit voyage, n'aura été qu'une sorte de fugue, bien que j'aie prévenu tout de même ma famille d'accueil. Mais comme ma carte bleue ne fonctionnait plus, j'ai dû me débrouiller sans argent, avec pour tout bagage un sac à dos. La beauté des lieux m'a inspirée au point que j'ai eu envie de faire de la photo. Le point de démarrage d'une longue et tenace passion chez moi. C'est comme enregistrer des paysages de mémoire pour les garder en soi, après qu'on les aura quittés. C'est une manière de fixer la vie qui va, d'arrêter le temps, de le capturer. En vérité, je ne sais plus si cet appareil photo était le mien ou celui de quelqu'un d'autre, un argentique toutefois. Ça nécessite une certaine technique entre vitesse de prise de vue et ouverture du diaphragme. Voilà une belle histoire qui commence, me suis-je dit. La photographie. Je me sentirais un peu moins seul avec tous ces souvenirs, ces paysages, ces visages, ces animaux, les animaux surtout, qui m'accompagneront partout où j'irai. Et ce monde en moi ne cessera de grossir et de s'amplifier au fur et à mesure de mes voyages. Comme la vie ne m'a rien donné, il faut donc que je m'organise à lui voler quelque chose d'utile et de sensible. Je pensais que l'armée, les chasseurs alpins, me seraient une seconde famille, et je n'y ai rien trouvé d'autre que ma solitude. J'ai fait beaucoup de conneries durant cette période, et mes difficultés avec l'autorité militaire n'ont pas eu l'air de plaire. Nous nous sommes quittés d'un commun accord, sans regret. Entre Rodez et Tarbes, j'ai fait des petits boulots à droite et à gauche. J'ai été embauché comme ripper. Ça me plaisait bien d'aller de village en village, d'un bourg à l'autre, derrière le camion Ben. J'ai vu des levées de soleil à des endroits que je ne soupçonnais pas. Ce boulot m'a donné des idées de récup pour faire du troc seulement, et jamais de l'argent. Pour moi, l'argent ne présente aucun intérêt. Par ce moyen, j'ai pu équiper mon studio de meubles abandonnés. C'est inimaginable tout ce que les gens jettent et ce qu'on peut trouver sur la voie publique. On jette aussi les gens de la même façon, lorsqu'on en a assez de les voir, de les supporter. À force de tourner en rond aux mêmes endroits, de croiser les mêmes gens, j'ai décidé de prendre définitivement la poudre d'escampette. J'ai échoué à Brive, un 1er avril, avec un sac à dos, quelques fringues sommaires et 1 euro pour toute fortune. J'ai fait le 115, le numéro du SAMU social, pour trouver où me loger. Au centre d'hébergement et de réinsertion Pâtier, j'ai trouvé un toit et des oreilles compatissantes. Mais j'ai compris que ce lieu n'était pour moi qu'une solution provisoire, même si j'ai pu y poursuivre mes activités photo et présenter mes œuvres dans une exposition au quartier Rivet. Grâce à cet album photo, j'ai pu expérimenter ma façon de voir sur ce quartier de Brive. Je ne veux pas me vanter, mais sur ce terrain, j'ai rencontré un certain succès. Mon album photo a séduit un responsable de la maison de quartier de Rivet, et il m'a demandé d'écrire quelque chose pour le journal des locataires de la cité. Au fond, n'est-ce pas le plus important dans l'existence que de suivre sa propre voie? La mienne, c'est la photo, forcément. Mes sujets, tous mes sujets, je les ai trouvés dans la nature, car je me sens bien plus proche des animaux que des gens, au point qu'il me serait difficile de photographier des visages. Les animaux, ça ne ment pas, ça ne triche pas. Point besoin de se cacher ou d'inventer je ne sais quel prétexte pour les prendre. J'ai souvent réfléchi à cette passion qui m'occupe l'esprit. Une photo, c'est toujours un moment volé au détour de la route, un moment que j'ai choisi, et que je veux conserver dans le fil de la vie qui s'en va. Quelquefois, entre copains, on se lance des défis. Trouver un éléphant dans la ville et le fixer sur la pellicule, par exemple. J'ai fini par le dégoter dans une vitrine sous la forme d'une peluche. Qu'importe, puisque la vie est une farce. Après quelques démarches assez compliquées, j'ai trouvé un logement à Tulle, et cette fois, un appartement avec jardin. Un jardin surtout, un coin de paradis pour mon chat. C'est un compagnon baladeur. Il lui faut un petit espace. Il est comme moi, il n'aime pas rendre des comptes, ni justifier ses allées et venues. Solitaire comme de juste. Quelquefois, je me dis que si j'avais la possibilité de remonter le temps, de revenir au point zéro où tout a commencé, ça serait plutôt bien, ce coup de baguette magique. Mais voici un désir impossible à combler. Il faut donc se satisfaire des petits riens que la vie nous apporte. Sans doute y a-t-il bien d'autres questions qui se bousculent dans ma tête, des questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse. Mais dans mon petit paradis à Tulle, je les cherche toujours. Runs Cassidy. Mon grand amour. L'exemple ne vient pas toujours des parents, à ce que je crois, et au vu de ce qu'a été ma petite enfance. Père et mère séparés, empêtrés dans la guerre domestique. Mais heureusement pour moi, j'ai conservé intact dans mon cœur le désir d'aimer. Par chance, celui-ci n'a pas été calciné dans mon enfance, comme il aurait pu l'être. Et lorsque je suis arrivée à Malemort pour un travail de sous-traitance dans l'atelier de l'ESAT et que j'ai obtenu un logement dans l'établissement de la Chêneraie, alors je me suis sentie renaître. J'ai mesuré tout le bonheur que l'on éprouve à vivre seul, à conquérir pas à pas son indépendance. Et mon désir d'autonomie, comme on dit ici, n'a fait que se renforcer au fil du temps. Je n'ai pas rompu avec ma famille que je visite aux vacances et certains week-ends. Je suis rebelle, rétive aux ordres. Je ne veux pas les aider à mettre le couvert, par exemple, ni rien d'autre qui m'oblige. Et invariablement, ça finit par de petites engueulades domestiques. J'éprouve le sentiment d'être incomprise, comme si l'on refusait de me voir grandir, échapper au carcan de la petite fille que j'étais alors. On refuse de voir et d'admettre une bonne fois pour toutes que je ne suis plus une enfant, que j'ai des envies de mon âge, aimer un garçon, vivre avec lui, voyager, connaître la vraie vie, loin du petit horizon dans lequel mon handicap m'aurait enfermé. J'ai ce grand désir, si fort et violent, d'être autre que ce que j'ai été, et échapper à cette image qui me colle à la peau, selon laquelle tout ce que je pourrais entreprendre demain serait voué à l'échec. Mais est-ce possible une autre vie conforme à mes rêves? Voici une question que je me pose souvent. Ne s'agirait-il pas seulement de la vouloir pour la conquérir? J'ai longtemps vécu dans cette illusion. Mais à force d'y réfléchir, je balance d'une extrémité à l'autre. Ce désir violent, s'il me force à me dépasser, m'emplit aussi de peur. Et si le monde extérieur m'effraie, il n'en est aucun autre qui me rendrait plus heureuse. Mon premier amour aura été Mario. Ensemble, nous avons connu des moments d'extase et de liberté incroyables, si bien que j'ai eu envie, enfin, de vivre avec lui. Mais j'étais bien la seule à exprimer ce désir, car lui, en revanche, il faisait silence sur la question. Dans notre entourage, nos familles voyaient d'un mauvais œil cette histoire d'amour. Vivre avec lui, en ville, dans un petit appartement, n'était-ce pas trop exigé de lui et de moi? Certes, les conseils n'ont pas manqué, et tout ça, en vérité, m'a rendue malheureuse. Tant d'incompréhension avait de quoi me désespérer d'aimer et courir après la liberté. L'éloignement de Mario m'a placée au bord du gouffre où j'ai cru tomber. Mais avec le temps, la machine à désir est repartie. Mathieu a été mon second amour. Sans doute n'a-t-il pas comblé le vide laissé par Mario. C'est ainsi, le jeu de la vie, lorsque l'on n'a pas toutes les clés pour y entrer. Néanmoins, ce nouvel amour m'a rendue heureuse, et nous avons vécu de bons moments de complicité. Je lui rendais visite les week-ends, durant lesquels nous partagions des sorties, mais seulement pour son bonheur à lui, égoïstement. Il ne pensait pas trop à mes désirs, les miens, ceux que j'entends combler dans une relation amoureuse. Alors, le cœur déchiré, j'ai connu une nouvelle descente aux enfers, si vive et cruelle que j'ai cru cette fois que je ne parviendrais plus jamais à aimer quelqu'un. Plus tard, Olivier est arrivé dans ma vie. Olivier, mon grand amour, celui qui me ferait enfin oublier toutes mes blessures passées. Du moins, je le croyais, je l'espérais. Ainsi me suis-je remis à formuler des projets, trop de projets. À la vérité, je suis ainsi faite, la tête emplie de désirs, de tous les désirs. La vie ensemble, les voyages, l'Angleterre par exemple. Mais déjà, les conseils affluaient de toutes parts. « Vas-y doucement, Adeline, pas de précipitation. Faut voir venir avant de s'engager. » Sur le chemin de l'existence, il se trouve toujours quelques voix discordantes pour briser mes rêves. Je me suis défendue contre elles, bec et ongles, en formulant quelques évidences. Lorsque l'on s'aime, où est le problème? Sans doute était-ce la sagesse, ce vent contraire pour moi, qui exigeait trop d'un coup. Rien n'est plus douloureux qu'une rupture lorsqu'elle livre de soi une image de fragilité extrême. J'emporte la faute, me semble-t-il, à force de lui dire, comme si je doutais au fond de moi-même de la durée de cette passion, « Tu vas me quitter, bien sûr. Un jour, tu vas me quitter. » Et de fait, il l'a fait. Et devant ce grand vide, j'ai cru sombrer à jamais. C'est Olivier que j'aimerai toujours, même si, à cet instant de ma vie, je le voue aux enfers. Je me dis souvent, lorsque la tristesse s'empare de moi et que les larmes me viennent au bord des paupières, mon dernier amour a été le plus fort et le plus grand de tous, et je l'ai perdu. Adeline Renoux. Le désir des désirs, renaître. J'ai toujours été un garçon solitaire. Cet état d'effacement, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour me protéger du monde. Pourtant, ce n'est pas une situation qui me convient. Bien au contraire, j'ai 53 ans aujourd'hui et j'aurais préféré vivre une existence comme tout le monde. Connaître une enfance heureuse, des histoires d'amour, des amitiés, jouir de la considération de mes semblables. Mais, hélas, ma vie a pris une toute autre direction. J'ai passé mon enfance dans une famille dominée par un père autoritaire qui s'adonnait à la boisson, sans retenue. J'étais l'aîné, le mal-aimé, celui qui n'osait pas se défendre chaque fois que j'étais en butte à des violences verbales et physiques. J'ai subi en silence, effacé plus qu'il n'aurait fallu, ces reproches continuels, selon lesquels je n'arriverai jamais à rien dans l'existence. Seule, ma mère m'a protégée contre ses colères. Une mère aimante et attentive, qui m'est restée si proche et qui aujourd'hui ne cesse de m'encourager et de louer mes qualités. Car je lui dois tout à ma mère. Elle m'a sorti la tête de l'eau au pire moment de ma vie. Elle habite à Ussel, dans la maison familiale, et je lui rends souvent visite. Après la mort de mon père, il m'est resté ce goût d'amertume profond que je n'arriverai décidément à rien. Comme si ses colères à mon encontre avaient fini par me persuader que, en définitive, j'étais cette sorte d'homme. Je me suis mis aussi à la boisson, pour trouver quelque compensation à ce mal-être qui me possédait. Jamais d'amis, jamais de compagne, rien. Un désert dans ma vie sentimentale et affective. En vérité, je n'avais que de faux amis, des profiteurs utilisant mes faiblesses. Puis, après des années passées dans une entreprise de travaux publics, et glissant peu à peu vers cet abîme, boisson et mal-être, j'ai fini par trouver le secours que j'attendais tellement. Un foyer accueillant et protecteur au centre d'hébergement d'Ussel, fort d'une équipe décidée à m'aider. J'ai cessé de fréquenter les bars. J'ai rompu avec mon ancienne vie et tourné le dos à la fatalité et au mauvais augure de mon père. Ma nouvelle vie reste donc à écrire, si tant est qu'il soit possible qu'une barrière étanche puisse séparer l'ancienne de la nouvelle, car on repart avec ce que le destin vous a laissé. Il faut donc s'en accommoder et combler quelques désirs. Des rencontres profitables, des amitiés, des amours, et surtout me débarrasser de cette peau d'homme solitaire et timide qui paralyse les rêves. Car je suis ainsi fait, j'ai les pires difficultés à entrer en contact avec d'autres gens, tant j'ai envie d'être seul. Dans ma vie, j'ai été floué, méprisé, considéré pour un moins que rien. Et je ne parviens donc pas, malgré tous mes efforts, à être reconnu à ma juste valeur. Dès lors, mon désir le plus profond, le désir des désirs, dirais-je, est que la société m'accepte tel que je suis, et ne me juge pas. Car j'ai un cœur fragile, une sensibilité à fleur de peau. Tout ce qui peut m'atteindre, les moqueries, les railleries, les réflexions assassines me blessent profondément, comme si cette image d'homme handicapé ne cessait jamais de réveiller ma douleur. Dans l'atelier de l'ESAT où je fais de la menuiserie, on loue la qualité de mon travail, et devant la tâche et l'ouvrage bien fait, on est tous égaux, handicapés ou pas. Ici, j'y trouve mon content de satisfaction. Je ne me sens pas différent des autres, bien au contraire. Mais au sortir de l'usine, je retourne à mon état solitaire, avec le poids de mes disgrâces sur mes épaules. Le regard de la société me redevient insupportable. Entre ceux qui s'estiment supérieurs à moi en me refusant la moindre considération, et ceux qui moquent ma pudeur, je suis un homme seul. Je ne parle jamais de moi, ni de ce que je pense. Personne ne sait rien de ma vie, ni ce que j'ai vécu, ni ce à quoi j'aspire. Alors, la solitude redevient le seul espace de liberté, où je puis faire des rêves et bâtir mes espérances. Il m'aura fallu 48 ans pour trouver l'âme sœur. Cécile m'est devenue proche. Une histoire d'amour nous lie l'un à l'autre. Elle est comme moi, avec peut-être un handicap plus lourd que le mien, ce qui nous interdit, hélas, d'avoir un enfant. C'était un de mes rêves pourtant. Il me faudra y renoncer. Et avant Cécile? Rien. Aucun amour. 48 ans de frustration. Une douloureuse attente, sans doute, jadis compensée par l'alcool. Je ne puis expliquer autrement ce manque de vie amoureuse que par la timidité qui me possède, cette absence de confiance en moi dont l'origine remonte sans doute à ce père dominateur qui écrasa mon existence dès l'aube de mes jours. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu cette envie de découvrir des espaces nouveaux. J'ai voyagé un peu, et seule. toujours seul. Je voulais visiter les Alpes, et je me suis rendu à Chamonix, où j'ai vécu quelques jours dans un chalet collectif. Cécile, hélas, ne m'y a pas accompagné, tant sa fragilité la prive de ce genre d'expérience. Je vais aussi au cinéma, à la bibliothèque, pour dénicher quelques ouvrages intéressants et des bandes dessinées. Car je sais lire et écrire. C'est un moment privilégié que celui-ci, où j'échappe au poids du quotidien. Et de même, je m'intéresse au rugby. Autrefois, j'ai joué aussi au club du sel. Dans ces moments d'évasion, je ne pense plus à rien, à mes angoisses, à mes déchirements intérieurs. Et cependant, chaque fois, je retrouve le centre d'hébergement avec bonheur. Aussi paradoxalement que cela puisse paraître, ce monde clos et protecteur m'est nécessaire, tant j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et jadis, ne m'a-t-il pas sauvé de moi-même ? Cécile, je l'emmène au restaurant de temps à autre. Je me sens bien avec elle, et je crois que ce sentiment est réciproque. C'est elle qui m'a choisi il y a 2 ans, parce que je n'aurais pas pu faire le premier pas. Comment se débarrasser de ma timidité lorsque, de surcroît, l'on ne sait pas comment parler de soi positivement ? Elle est gentille, adorablement complice avec moi, même si nous ne disons pas grand-chose. Partager sa couche est un bonheur, hélas si tardif dans ma vie. Mais qu'importe, l'essentiel est que nous nous soyons trouvés. Désormais, mon goût pour l'évasion et la découverte d'espaces nouveaux, loin de l'ESAT, exigerait que j'apprivoise la conduite automobile. J'ai déjà obtenu le code, mais le reste me paraît insurmontable, à cause d'un accident que mon père a eu dans mon enfance. C'est un fait marquant parmi d'autres, mais dont le souvenir si prégnant paralyse ma volonté. Certes, il me faudrait surpasser cette peur, maintenant que je suis, comme le disent les éducateurs, dans ma phase de reconstruction. Ce serait le parachèvement, en quelque sorte, avec une porte grande ouverte sur l'infini. Comme il en aura fallu du temps, me disent-ils, les éducateurs, pour accéder à ce nouveau projet, après l'abandon de l'alcool, la fuite des faux amis, la découverte de l'amour. Maintenant, la voiture et les longues balades vers l'Auvergne. Mais hélas, il y a ce blocage, dis-je. Tu peux y arriver, me dit-on. 53 ans, c'est encore jeune, et assez cependant pour commencer une nouvelle vie. Oui, me dis-je, ça changerait tellement de choses. J'ai le désir au corps et au cœur pour cette métamorphose, pour le nouveau Marco. Enfin gagner par ce jeu de la vie un regard optimiste et favorable sur ce que je suis réellement, le Marco que personne ne connaît, tout au fond de moi, caché et secret. Et ce père destructeur, jadis, comment pourrais-je le conjurer une bonne fois pour toutes ? Ce geste fait partie de ma renaissance, n'est-ce pas ? Car s'il était là, mon père, s'il revenait des limbes, je lui dirais enfin tout ce que je n'ai pas osé lui dire autrefois. Je lui dirais enfin ce que j'ai sur le cœur. Je lui dirais que je l'aime, que je n'ai aucun reproche à lui faire, et qu'il me manque. Jean-Marc Massias. Février 17, 13h45, heureux comme un ange. Maëva m'est tombée du ciel, un certain 17 février à 13h45 précisément. Cheveux blonds, longs, et yeux gris, si belles. Comme sur la photo de Facebook où nous nous sommes décidés l'un et l'autre pour ce rendez-vous à Tulle. Le coup de foudre immédiat. Jamais ressenti jusque-là. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'avais peur. Je ne savais comment faire. Je me sentais timide. Et puis, je me suis dit « courage ». Pourtant, la suite a été plus simple. Maëva m'a souri et m'a dit que j'étais très mignon. Et je lui ai dit qu'elle était très belle, qu'elle me plaisait. Alors, nous avons commencé par nous prendre par la main. Puis, au bout de quelques minutes, je me suis décidée à l'embrasser, furtivement, et avec insistance, le coup de foudre. C'est ainsi. Lorsque deux êtres se sentent soudain attirés l'un vers l'autre, sans que rien ne puisse entraver ce mouvement, il y a eu un silence. Puis je lui ai décrit à ma façon ce que je ressentais, ma brutale attirance. « Mon bébé, mon amour, » m'a-t-elle dit en m'embrassant de nouveau. Et moi aussi je cherchais ses lèvres, guettant dans ses yeux ce chavirement étrange qui s'appelle l'amour. Je n'avais jamais encore éprouvé une telle intensité dans mon existence de désir et de passion. « Mon trésor, » lui ai-je dit, « pour moi, tu es mon trésor. » Puis, nous avons marché dans la ville, légers et joyeux, comme si le destin, en nous faisant ce cadeau, nous portait sur les hauteurs du monde. Plus rien n'existait autour de nous que nos regards passionnés et nos gestes d'amour, dans une tempête de désirs s'enchaînant à la suite. En nous quittant, j'ai emporté avec moi son visage, sa beauté, sa douceur, l'odeur de sa peau et les frissons de nos caresses. Et une fois seule, dans ma chambre du centre d'hébergement, j'ai pleuré de joie. Je me suis cachée pour vivre mon émotion, loin des autres. Puis, ensuite, je n'ai rien dit à personne sur mon rendez-vous de 13h45. J'avais peur qu'on me moque, qu'on me pose des questions malveillantes, qu'on me lance des réflexions indécentes. Celles-ci auraient entaché mon bonheur, mon amour. Une histoire d'amour, me suis-je dit, c'est trop intime, trop personnel. Les autres n'ont pas le droit de savoir. Cette passion-là, elle doit rester secrète entre Maëva et moi, aussi longtemps que je le voudrais. J'ai passé des heures à me remémorer notre journée, chaque détail ne faisant que renforcer le désir que j'avais d'elle. Désormais, je n'espère que la retrouver au plus vite et fonder quelques projets d'avenir. Cette longue réflexion m'a persuadée que ce n'était pas un rêve inaccessible, Maëva, mais bien la réalité. Je peux le dire maintenant que tout semble me sourire. Avec Maëva, j'ai craint un moment que la série continue, celle de mes désillusions, comme ce fut le cas avec mes deux précédentes liaisons. Que ce soit Daria ou une autre, voici des femmes qui se sont jouées de moi, honteusement, et dont j'ai eu à souffrir. Et si d'aventure Maëva ne voulait plus de moi, soudain, comme dans un cauchemar, je serais malheureux, effondré de douleur. Comment pourrais-je du reste envisager l'avenir sans elle, moi qui ne vois plus les couleurs du lendemain sans sa présence? Mais rassurons-nous, toute fatalité a une fin, me suis-je dit. Et cette fin est heureuse. Alors n'insultons pas l'avenir. Maëva est pour moi, enfin, venue pour moi, rien que pour moi. À notre seconde rencontre, j'ai dit à Maëva tout ce que j'avais ressenti de notre rendez-vous de 13h45. Elle m'a écoutée, forte émue et bouleversée. Et notre désir s'est amplifié lorsqu'elle m'a avoué qu'elle avait, elle aussi, éprouvé les mêmes réactions, après que nous nous sommes séparés. De douces larmes ont éclos sur son visage, et j'ai ressenti un violent désir de l'aimer. Puis je lui ai dit « Est-ce que tu veux vivre avec moi ?» Elle a répondu en me serrant dans ses bras « Je te veux, oui, je te veux, et plus encore. Surtout, ne jamais te perdre. » Nous pensions tous les deux à la même chose, mon handicap. Se pourrait-il que mon handicap soit un barrage à notre passion, que Maëva juge à partir de celui-ci que notre histoire ne se pourrait poursuivre ? Non, m'a-t-elle assuré. Au contraire, je te veux tel que tu es. Et même, je t'aiderai à progresser dans ta vie, à surmonter les difficultés. Ce sera ma manière de te montrer combien je t'aime. Nous nous rejoignions cœur battant, tous les week-ends pour faire des promenades, aller au cinéma et trouver un peu d'intimité. Voici un état si particulier que j'appelle le bonheur, tous ces moments de complicité. Enfin, tous deux, nous avons commencé par bâtir des projets. Dans 2 ans, lui ai-je promis, nous vivrons ensemble dans un appartement. Si je sens déjà poindre son impatience, il faut aussi me raisonner. Pour ce faire, je dois gagner de l'autonomie, pas à pas, avec de la patience et une forte volonté. Sans elle, je n'y parviendrai sans doute pas. Car il faut un but pour avancer dans la vie, et celui que je vis est de tous le plus merveilleux. Je suis un homme heureux, lui dis-je. Ça guide mon existence de te savoir dans cette attente, et de sentir que tu m'aideras à la gagner, cette liberté. Pas trop vite. Pas de précipitation, me conseille-t-on. Mais moi, j'ai envie d'aller vers elle à bride abattue. Pour une fois que j'ai une âme sœur pour me suivre, je lui écris souvent, je lui envoie des SMS, et de même, elle m'assure par la même voix qu'elle a toujours espéré connaître un homme sérieux, et que je suis celui qu'elle cherchait, malgré mon handicap. Car l'amour, dit-elle, c'est l'amour. Ça renverse tous les obstacles. Je me vois déjà, 2 ou 3 ans plus tard, dans un appartement avec elle. Nous aurons des enfants, certes oui, après que nous nous serons pacsés. Et nous envisagerons quelques voyages à Barcarès, La Rochelle ou Biarritz. J'adore la mer. Et pour elle, je passerai le permis de conduire et j'achèterai une voiture automatique pour découvrir des contrées nouvelles. L'amour a besoin aussi d'un horizon élargi pour s'inventer des souvenirs. Je lui offrirai des fleurs en lui disant 100 fois « je t'aime » et nous ferons des promenades à cheval sur des chemins perdus. Maintenant, avec tous ses rêves et ses désirs en tête, je sens qu'il me pousse des ailes pour m'envoler avec elle. « Heureux comme un ange, » me dis-je. Geoffrey Mons. Fragment d'un désir amoureux. 1. La rencontre. Sur le bord du lac de Constance, un soir, traînant le pas plus loin qu'à l'ordinaire, Quentin se laissa conduire par le charme d'une valse lointaine. Sur la piste de sable, une fille enveloppée d'une tunique blanche collée à la peau par un bain surprise, aussi fine et transparente qu'une pelure d'oignon, tournoyait entre 2 garçons comme un papillon de nuit. La surprise passée, Quentin risqua un pas hors de la frontière d'ombre, s'offrant tout entier sur la piste de danse, quitte à interrompre brutalement le charme de cette scène. Un regard s'adressa à lui, persistant. Il baissa les yeux, honteux. Une main agile glissa sur son épaule, à peine effleurant. geste osé, provoquant, méprisant peut-être. Face à cette attitude hautaine, le visiteur préféra sourire, paupières mi-closes. « Quel sérieux !» ajouta la fille. « Approche donc !»« Je ne sais pas si je dois vous obéir, » souffla Quentin d'une petite voix. « Je ne suis que de passage. Le mieux encore est de considérer que je n'existe pas. » Il y eut alors un curieux silence, meublé en fin de parcours par un rire un peu fou. Quentin ne savait encore rien d'elle, mais la créature avait bien trop pris la forme de son désir pour qu'il ne lui découvrît pas les apparats nécessaires à satisfaire la curiosité. Gorge serrée, il réalisa que cette minute, longtemps, il ne pourrait en oublier le goût. Et, tout de suite, il sut au tréfonds de son âme que le lancinant désir de cette image de fille, un savoureux mélange composé de douceur et d'âpreté, remonterait à la surface lorsqu'il lui faudrait en exorciser l'absence et qu'il ne trouverait le salut que dans ce masochisme latent, traçant en sourdine ses fines rigoles dans l'étale peau sensible de l'indifférence. 2. Marika, profil perdu. Quentin traversa le salon. Il regardait Marika, les cheveux courts de Marika, les lunettes au bout du nez, la longue robe noire, le fin corsage brodé. Était-ce elle? Était-ce bien elle qui lui avait dit dans un murmure « Tu n'aimerais pas que j'aie du chagrin. Ce serait si vilain entre nous. Nous avons eu une si belle nuit. Il faut rester pour se souvenir. » Ce n'était pas possible. Pourtant... Fallait-il qu'il eût le regard embué cet été-là au bord du lac pour qu'il ne l'eût pas reconnu à la seconde? Il l'avait fantasmé, son aise, trituré dans sa tête, redessiné à sa convenance. Il en avait construit une épatante image du désir, flatteuse et hautaine. Pourquoi donc avait-il déserté dans la nuit après l'amour? Mais c'était trop tard. Trop tard. Impénétrable visage de femme aux saisons changeantes. 3. Désir d'écrire sur elle. Fouillant ses poches, méticuleusement, plusieurs fois, Quentin ne retrouva pas le carnet noir sur lequel il avait pris l'habitude de noter ses réflexions intimes. Il avait envie de se souvenir de ce bateau blanc sur l'eau grise du lac de Constance, du regard de cet inconnu déjà perdu dans la spirale des images fugitives. « Nos désirs, songea-t-il, sont filets d'eau, glissent dans nos mains serrées qui tentent d'en capturer l'inexorable fuite. » Il se souvint alors qu'il n'avait rien noté sur Marika. Cette constatation lui arracha un sourire d'amertume. Il recommanda alors un nouveau bourbon, en se jurant que ce serait le dernier. Il détestait cette façon de compter le temps en verre de whisky. Le dernier? Cela pourrait tout aussi bien signifier qu'il en prolongerait l'usage jusqu'à la nuit. 4. Froid et brouillard. Dans le froid de l'avant-matin, face à la baie vitrée, Quentin s'éveilla et demeura un long moment sans bouger. Plus tard, décidé enfin à se dégourdir les jambes, il refit le trajet des souvenirs. Le Vasarely, le piano droit avec la partition de Schumann toujours ouverte sur les scènes d'enfants, le vase vide, la pendulette de Saxe au mécanisme arrêté. Tout cela, désormais, lui parut terne et d'un ennui sans limite. Puis il sortit dans le matin frileux, s'avança au bord de la terrasse. Tout n'était que brume et brouillard, neige et glace. À peine distinguait-on la piscine où il avait passé l'été dernier une longue après-midi à attendre désespérément un petit signe de Marika. Il arracha sur la bordure de la terrasse un paquet de neige et se frictionna le visage. Il se souvenait du petit chemin qu'elle avait gravi, corps délicat dessiné en transparence dans sa fine robe diaphane. Il ne savait plus très bien si tout cela s'était ainsi passé. Rêve et réalité, comment départager? Car il avait si souvent rêvé cette fuite, le trajet de cette silhouette blonde évanouie à jamais. Désormais, tout était si simple. Marika n'était plus Marika. Et, songeait-il près de la piscine vide, les fonds tapissés de feuilles mortes, croûtes verdâtres, tout cela qui m'avait paru sublime, ce n'est que ça, objet funéraire. Jean-Paul Malaval. Remerciements. L'ADA Pays de la Corrèze souhaite remercier les 25 personnes en situation de handicap qui se sont livrées aux auteurs et ont collaboré avec eux à l'écriture de leur histoire. Ces remerciements vont également à Anthony Signol, Sébastien Vidal, Christian Lenné, Aude Courty et Jean-Paul Malaval, qui les ont accompagnés bénévolement tout au long du processus d'écriture de leurs nouvelles. Leur écoute et leur aide ont permis de faire naître des récits qui nous transportent d'un sentiment à l'autre. L'ADA Pays de la Corrèze remercie chaleureusement Franck Bouys, qui a signé la préface de ce recueil. Un grand merci aux professionnels accompagnants pour leur disponibilité tout au long du projet et aux directions des établissements ayant permis l'organisation des rencontres. Merci à Runs Cassidy qui, en plus de s'être livré à l'exercice de coécriture d'une nouvelle, est l'auteur de la plupart des photos du recueil. Ces remerciements vont aussi à Lou Signol, auteur de cette couverture originale. Enfin, l'ADA Pays de la Corrèze remercie son pôle Habitat et Accompagnement et son pôle Travail, ainsi que les représentants légaux et les juges des tutelles pour leur soutien dans cette aventure. Ici se termine Des sentiments comme les autres, publié par l'ADA Pays de la Corrèze.